メモリ容量がいっぱいです。録音できません。
Radio FMR, nous sommes le samedi 5 juin 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la chanson de geste que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Une usine qui s'appelle la prison, quoi, à faire du criminel, à broyer de l'esprit humain, à torturer, à... On n'est pas d'accord avec ça, on a vu des gens souffrir, tu vois, être détruits complètement, prendre du Lexomil, laisser la télé allumée tout le temps parce qu'ils ont vécu juste avec la télé, être complètement détruits.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Ben, bonjour à vous, bonjour à tous. Désolé de ne pas avoir été là la semaine dernière. C'était pas tip top, oui, je sais. Là, aujourd'hui, nous fêtons la France victorieuse, la France magnifique face à la Chine. La France qui donne des leçons aux chefs d'État africains en disant « Nous, contrairement à la Chine, nous savons nous occuper ». Et le petit Nicolas qui doit bien se faire marrer à propos de son équipe nationale. Ça doit être joli.
Ah ben, la Chine, nouvelle puissance mondiale. Là, 83e au rang UEFA.
moi j'ai une bonne proposition quand même, c'est de faire en sorte que Nico se barre en Afrique du Sud pendant un mois, et qu'il soit aux côtés de l'équipe de France, parce qu'on a vu ce que ça a donné. Il est allé à Genève et on a l'euro. Alors mon gars, casse-toi, vas-y, va en Afrique du Sud, et puis comme ça bah, on remportera la Coupe du Monde.
C'est pour une fois qu'il ait quelque chose de positif dans son bilan, c'est ça?
Ouais, mais à Genève, il n'y avait pas Domenech.
Question politique, toujours, mais là, c'est une actualité qui est un petit peu tragique et qui s'est passée récemment, c'est-à-dire lundi dernier, qui concernait, je veux dire, un bateau humanitaire qui a été arraisonné dans les eaux internationales par une autorité étatique en contradiction totale avec les lois internationales. Il y a eu une réaction assez sachet dur d'un cinéma toulousain, et quand du sport m'a dit je vais pousser un coup de gueule contre les cinémas toulousains, je ne m'attendais pas à ce que ça soit envers eux, et finalement c'était logique.
Oui, c'était pas tous les cinémas, hein,
c'était particulièrement celui-ci. Donc Dus, ma foi, qu'est-ce que tu as relevé et qui t'a fait littéralement bondir? Et c'est vrai qu'une fois que tu nous l'as montré, on était là...
Ah bah oui, c'est vrai. Hein. Je veux dire, en lisant la dépêche d'aujourd'hui dans les pages régionales, on tombe... Enfin, c'était même annoncé en gros titre, hein, je veux dire, dans les en première page, me semble-t-il. Et on tourne la page et on voit l'Utopia déprogramme un film israélien, film qui devait être programmé à partir du 25 juin prochain, qui s'appelle « À 5 heures, Paris ». Et Anne-Marie Faucon, qui reste co-responsable de l'Utopia, déclare « Nous souhaitons manifester notre désapprobation après les agissements de l'armée israélienne. Cette décision vise la politique menée par Israël et non le peuple israélien. » Alors, franchement, on voit pas où est le rapport.
Oui, parce que justement, hein, s'il vise la politique, je ne vois pas l'intérêt dans ce cas-là de déprogrammer une œuvre artistique dont finalement l'auteur, on ne sait pas quelles sont réellement ses opinions. D'ailleurs, on ne sait pas, on n'a pas réussi à trouver un résumé du film en question, À 5 heures Paris, donc on ne sait pas finalement de quoi parle le film.
Non, pas du tout, mais bon, sans rentrer dans un débat qui pourrait durer des heures entre la différence qu'il peut y avoir entre l'art et la politique, l'art qui peut être engagé ou qui doit être au-dessus de la politique, parce que bon, c'est un débat qui est passionné,
on
certainement,
a pas fini, oui.
Mais on n'a pas fini. Hein, moi, je pense que bon, il fallait quand même laisser ce film à l'affiche, hein, moi c'est mon avis personnel, et surtout pas trouver un prétexte qui est pratiquement bidon, je pense, hein, pour déprogrammer ce genre de film. Parce que surtout. On aurait pu juger de la qualité artistique de ce film en le voyant. Et là, ciao les gars.
Alors, ils l'ont déprogrammé à la place. Il y a un documentaire sur une américaine qui avait été écrasée par un char israélien. Donc, pour revenir là-dessus, le problème n'est pas vraiment là. Le problème de ce côté-là, relativement simple. C'est que on est sur, je vais dire, une question qui est toute simple. C'est finalement avoir fait cette déprogrammation. Est-ce que c'est pas un coup de com absolument honteux qu'a fait Utopia, c'est-à-dire sous prétexte que c'est vrai ils ont un engagement militant, souvent on a parlé sur cette antenne, voire des fois on a un petit peu parodié, mais là est-ce que ce n'est pas un coup de com absolument pitoyable qu'ils sont en train de faire sur le dos d'un artiste sous prétexte d'actualité parce que voilà comme ça. La question que je me pose.
Oui, mais on peut aller plus loin. On pourrait être très méchant. On pourrait également dire que ils ne se gênent pas pour critiquer les lobbies quand il s'agit de la puissance libérale, la puissance des multinationales et tout. Ben là, on pourrait également parler de lobbying, mais dans le sens inverse. Hein. On va pas citer les différents groupes qui sont en lobbying.
Et ceci dit, en dehors de, sans parler justement de la guerre, de la situation conflictuelle entre le gouvernement israélien et les différents gouvernements palestiniens et tout le reste, on ne tient absolument pas à rentrer dedans pour différentes raisons, mais c'est là ce qui fait bondir du sport et moi je ne peux que m'associer là-dessus ce problème.
Par contre, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais ce n'est pas uniquement lutte, parce que en fait c'est une chaîne Utopia Toulouse, c'est pas seulement.
Tu veux dire que c'est pas un cinéma indépendant?
L'Utopia original, le premier Utopia a été créé à Avignon.
Oui, tout à fait. Ensuite,
ça a été Toulouse et il y a depuis Bordeaux, d'autres Utopias qui se sont créés
aussi à côté de Toulouse.
Voilà. Mais enfin ce sont quand même c'est pas une chaîne de cinéma quoi. Mais enfin ce sont des cinémas qui sont indépendants au niveau de leur programmation, hein, qui ne sont pas sous le joug de Gaumont et Pathé, les deux méga mastodontes.
En tout cas, c'est
du cinéma.
En tout cas, c'est inquiétant parce que là, on est dans le coup de com, à mon sens. Hein.
Ouais. Et justement,
rien ne les aurait empêchés de programmer justement ce documentaire à côté, voire associé dans la séance. Après tout, c'est pas la première fois qu'ils ont fait le coup de mettre un film militant d'introduction à un autre film, des fois qui n'avait rien à voir. Ça, ils l'ont fait plusieurs fois. Rien ne les aurait empêchés. Là, je trouve que c'est vraiment prendre en otage effectivement la distribution du film qui ne demandait pas ça et les gens qui auraient été intéressants pour voir cette œuvre-là. Thomas.
Oui, après moi c'est vrai que je parle pas mal du cinéma Utopia parce qu'il y a des films qui passent là-bas qui ne passent pas ailleurs. On en parlait en off
tout à l'heure,
c'est un autre débat aussi. C'est vrai que c'est aussi une chaîne de cinéma qui est quand même assez militante aussi. Et c'est vrai que moi personnellement quand je vais au cinéma là-bas voir un film, j'ai pas l'impression d'aller qu'au cinéma. J'ai l'impression d'aller dans une espèce de manifestation politique.
Oui, mais ils le revendiquent, hein, ça y a pas de problème. Oui. Les gens qui vont à l'Utopia savent qu'ils ne vont pas dans un cinéma de grande salle et tout, savent qui vont
on peut pas le leur reprocher justement par le fait que en général les œuvres qui sont destinées à la jeunesse ils essaient d'éviter justement de faire justement cette inclusion de messages politiques et tout ça.
Oui, quand c'est les films consacrés à la jeunesse, les spectateurs passent quand même, il y a pas mal de tracts affichés dans le hall qui est fort joli au passage, mais
là n'est pas le problème, hein. La classe d'un de mes enfants au cinéma Utopia dans une séance du matin pour aller voir un film Conte de Noël il y a un an ou deux ans, hein, je peux vous dire que de toute façon les gosses à cet âge là
ils voient les belles images
à la limite et c'est tout, hein, ça suffit, hein. De toute façon ça rejoint
ce genre de déprogrammation sauvage, on l'a plutôt vu en général pour d'autres raisons, hein, dans des multiplex,
voilà,
sorties techniques, et en général l'Utopia justement essaie de donner une seconde vie à des films et c'est pas plus mal. En plus, surtout qu'ils étaient les seuls à une époque à y passer en VO sous-titré, hein. Mais là, ça nous a choqués. Personnellement, je pense que du sport, a bien fait d'en parler. Moi aussi, je trouve ça choquant et je sais pas pour les autres.
Ouais. Enfin, on peut continuer dans ce domaine-là, hein, puisque bon, bah, vous m'avez lancé là-dessus. Moi, je comptais y venir lors de la page cinéma, mais on a tapé sur l'Utopia, donc cinéma indépendant. Je vais également un petit peu taper sur les grosses machines de guerre du cinéma.
Allez, aujourd'hui, on tape sur les cinémas.
Hein, les Gaumont, les pâtés.
Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Je sais pas si vous lisez la presse quotidienne relativement souvent et tout, mais il y a un film qui a fait parler de lui, hein, qui a été produit. C'est un film indien qui est sorti aux États-Unis, qui a rencontré un franc succès et qui est tourné avec quand même l'une des grosses vedettes, la grosse vedette du cinéma indien, Shah Rukh Khan. Ce film s'appelle My Name is Khan et ce film est sorti dans les salles françaises mercredi dernier. Or, il a fallu attendre aujourd'hui pour que dans la dépêche, on nous annonce qu'il y a quand même deux séances qui sont programmées aujourd'hui et peut-être demain, en après-midi et en fin d'après-midi. Deux séances sur une journée pour ce film My Name is Khan, donc, qui est à l'affiche au Wilson, hein, je vais en parler, il y a qu'au Wilson qu'on pourra le voir, donc, aujourd'hui, 16h et à 16h20, un truc comme ça, et à 19h.
Donc, inutile de dire que tu vas foncer.
Cajol. Et un film qui...
Tu vas foncer après l'émission, pour protester, quoi.
Je vais foncer, je vais essayer de me trouver un moment pour essayer d'aller le voir quand même. Parce que c'est l'occasion de voir un film indien qui n'est pas un pur Bollywood parce que ça a été une coproduction. Sure. Ça se passe aux États-Unis, ça raconte l'histoire d'un jeune indien qui est américain, qui a été naturalisé américain, mais qui est autiste et qui va devoir se déplacer, c'est une espèce de road movie, hein, je vous en dis ce que j'en ai lu, c'est une espèce de road movie où il va aller de Californie jusqu'à Washington pour plaider sa cause et tout ceci sous fond d'Amérique post 11 septembre. Donc, peut être vraiment
assez
très, très
de
bien.
L'idée qu'on se fait du cinéma indien.
Voilà. Bon, il y a les traditionnels Bollywood, c'est-à-dire il y a les scènes comédie musicale et tout. Il y en a pas trop. Il y en a 3 ou 4 d'après ce que j'ai pu ou cru lire. Mais c'est le genre de film auquel il faudrait donner sa chance parce que ce n'est pas vraiment un produit Bollywood qui est uniquement réservé au marché indien, comme la grosse majeure partie des Bollywood. Et là, bon, c'était l'occasion que, bien sûr, les grosses chaînes, Gaumont, Pathé et tout ça, on laisse épicer, parce que c'est sûr que ce n'est pas le genre de film qui fera 5 millions d'entrées comme un Prince of Persia ou comme une autre grosse bouse animée par des CGI et puis autre grosse merde qui rendent l'image carrément irregardable.
Il est pas en 3D. Merde, ça fait
alors
chier.
Tu rappelles j'ai pas compris en fait, c'est deux séances uniquement aujourd'hui ou deux séances
J'ai vu ça aujourd'hui, hein, donc dans la dépêche c'est aujourd'hui à 16h20 et ensuite à 19h10, c'est tout. OK. Et peut-être demain il y aura d'autres séances, on verra
en
ça.
VO.
Hein?
En VO.
En VO tu rigoles.
Hop, pourtant le Wilson, rendons à César ce qui est à César pour certains films, le Wilson est quand même un des rares à passer en VO.
Attends, je me trompe peut-être, hein. Je crois qu'il est en VO quand même. Ouais.
D'accord. Merci.
Donc si vous aimez ce genre de cinéma, allez-y.
Non, mais c'est l'occasion de découvrir ce genre de cinéma également et de découvrir surtout Shah Rukh Khan, qui est vraiment là, il doit avoir pratiquement. Il est près de la cinquantaine et tout. Là, il est vraiment au sommet de son art. Hein, là, on se rend compte que c'est pas uniquement un mec qui sait faire des mouvements genre je caresse le chien en dévissant l'ampoule. Mais c'est également un type qui sait très bien jouer la comédie. Hein, la comédie, les rôles dramatiques et tout, il n'y a pas de problème, il sait faire. Et avec lui, eh bien, une des jeunes prometteuses, prometteuse, ça fait quand même un bout de temps déjà qu'elle tourne, elle est encore assez jeune, c'est Kajol, hein, qui est donc qui joue le rôle de la nana dans ce film, aux côtés de Shah Rukh Khan. Donc, My Name is Khan, c'est au Gaumont Wilson, donc si vous pouvez aller faire un tour, et au lieu d'aller voir Prince of Persia, jetez un coup d'œil sur ce truc-là. Hein, à mon avis, ça pourrait peut-être vous plaire.
Voilà, juste dernière info avant d'entamer les sorties BD. La semaine prochaine commence la longue et difficile galère, le carême culturel pour moi, c'est-à-dire être le mondial de foot. Et le supplément au week-end retente une opération déliante comme on avait fait il y a 4 ans. À savoir, on va faire un hommage à District 9 au football.
Oui, tout à fait. Et il faut qu'on s'en occupe d'ailleurs.
Et ce soir, allez hop! Et vous y mettre dessus. Non mais zou. Et on va commencer les sorties bande dessinée avec une un reportage bande dessinée de Pierre Christin, qui est le scénariste, entre autres, de Valérian et Laureline, et Olivier Balès, qui est un nouveau venu sur la scène BD, s'appelle Sous le ciel d'Atacama. C'est sorti chez Casterman et c'est un reportage de bande en bande dessinée qui était paru dans la prestigieuse revue trimestrielle 21. Qui est disponible en général qu'en librairie et encore certaines. Et là, ben, l'édition d'album est une occasion de compléter avec les photos et les notes des auteurs. N'oublions pas d'abord que le scénariste de Valérian et Laureline fut d'abord un infatigable baroudeur, un professeur de journalisme à l'IUT de Bordeaux. C'est donc accompagné d'un jeune dessinateur qu'ils partent ensemble au Chili visiter l'un des plus ambitieux projets astronomiques, un chantier immense à 5000 mètres d'altitude dans un plateau désert. L'observatoire d'Atacama est une collaboration entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon qui consiste à construire d'immenses radiotélescopes afin de mieux cartographier le ciel non visible. Des antennes gigantesques déplacées par des engins de chantier démesurés, le chantier est hors de proportion dans des plateaux désertiques de la cordillère des Andes. Car le Chili est un pays avec de très nombreux observatoires. L'ESO, European South Observatory, comporte de nombreux sites qui allient très haute technicité, moyens impressionnants et lieux absolument désolés. C'est justement parce que ces montagnes du Chili ont à la fois un ciel très pur, un air très sec, l'absence de pollution à la fois industrielle, lumineuse et radiophonique, mais aussi d'immenses étendues désertiques qui permettent d'envisager par exemple la mise en place de télescopes interféromètres extrêmement larges. Bon, je sais, dit à la radio comme ça, ça sonne rien. Donc je vous invite à chercher sur la Wikipédia le désert d'Atacama, A-T-A-C-A-M-A. Alors comme le chantier est en cours, on ne s'intéresse non pas aux recherches immédiates, mais plutôt à l'histoire des lieux, aux habitants et à ce qui attire les chercheurs dans cet endroit. La rencontre et les échanges entre la population locale et ses écouteurs d'étoiles donnent de jolis moments de poésie. Alors un reportage en bande dessinée dans un coin reculé de notre planète, là où les étoiles justement n'ont jamais été aussi proches. Sous le ciel d'Atacama, de Pierre Christin et Olivier Balèze, un reportage BD sorti chez Casterman, prépublié auparavant dans la revue 21. Ma voix n'était pas encore assez chaude, c'est pour ça que j'arrête pas de me trébucher sur le texte. C'est une catastrophe. Et ça va être là tout à l'heure pour l'article de deux pages. Enfin, en tout cas, c'est pas une fiction, mais c'est une découverte plutôt intéressante. Plutôt pour les fans d'astronomie, par contre, hein, vous êtes prévenus. Gaston, la biodiversité selon la gaffe, c'est pas un album inédit de Franquin, c'est une compilation sortie chez Marsu Productions. Si vous connaissez le Gaston, la gaffe, c'est-à-dire le gaffeur qui pourrit les locaux du journal de Spirou avec ses inventions complètement de dingue et dont la productivité est à peu près équivalente à celle d'un paresseux au repos, cette compilation de gags autour des animaux vous laissera sur votre faim. On y trouve les plus gentils. Tous les gags contre la chasse à la baleine sont passablement oubliés. Et pour cause, cet album est dédié au programme environnemental de l'ONU. Pas de place donc pour les activistes de Greenpeace. Et donc, les gags de la fin de Gaston Lagaffe sont passés un petit peu, je veux dire, à l'as. Après, c'est un sympathique album avec quelques illustrations inédites tirées du journal de Spirou et quelques petits textes didactiques. Encore un album idéal sur l'autoroute, un peu, comme le bouquin là qui était sorti sur la compilation de séries jeunesse pour faire découvrir à l'attention de l'UNESCO. La biodiversité selon la gaffe, c'est idéal pour faire découvrir à vos gamins à la fois les animaux et la gaffe. À une condition quand même qu'il n'y ait pas trop d'hérissons écrasés sur l'autoroute, hein. Sinon ça vous pourrira le trajet, c'est clair. J'ai l'impression que Thomas ne connaissait pas les Gaston Lagaffe.
Si, mais il y a certains gags, effectivement, je me suis surpris à reconnaître. Mais non, mais je suis content parce qu'il y a le retour de la mouette rieuse et du chat, donc ça va.
Et donc quelques planches inédites qu'on avait vues que dans Spirou. Enfin, des illustrations inédites qu'on avait vues que dans Spirou. Mais sinon, il y a le gag des poussins, il y a le gag des tops, des trucs comme ça. Donc c'est toujours marrant. Par contre, c'est vrai que ça choque un petit peu l'œil parce que c'est pratiquement 25 ans hein, de la carrière de Franquin qui sont compilés comme ça.
Ah, bon, je dirais pas que ça choque, mais c'est vrai que t'as un grand écart, oui.
Le terme est faible. On va passer littéralement à autre chose. Midi 20 sur Poubelle des Radios avec le Samouraï Bambou scénarisé par Issei Fuku et dessiné par Taiyo Matsumoto. Le troisième tome donc est sorti dans la collection Made in Shikana. On rappelle quand même que Taiyo Matsumoto, c'est l'auteur d'Amer Béton, qui était un ouvrage graphiquement qui a montré en France que ben voilà, les dessinateurs japonais sont capables de trucs absolument incroyables et de mettre sa race à la nouvelle vague française de l'association. mais honnêtement, sur cette série, c'est très difficile de rester indifférent au style qui a été adopté par Taiyo Matsumoto. On accroche ou on rejette complètement. Il y a toujours cette idée d'être graphiquement proche des estampes japonaises de la fin du 18e, début 19e. C'est clair qu'il faut s'accrocher pour lire le troisième tome, surtout que l'histoire n'aide pas vraiment. Alors on sait que Soichiro était un ronin assez spécial, plutôt pacifique, rêveur, et s'était installé comme maître d'école pour les jeunes du coin. Que le sabre de bois lui a été légué par son père, qu'il a le respect de maître sabreur, mais qu'il refuse d'avoir autre arme que son bout de bambou. Alors les scènes de combat ne sont pourtant pas rares, mais c'est toujours cette impression de langueur qui revient. Les auteurs jouent justement sur cette quotidienneté, sur la vie, de Soichiro, qui essaie d'éviter tous les combats et tout ça. Mais en même temps sur la pression que subit Soichiro. Toujours soupçonné par les autorités, visiblement se cachant d'un redoutable ennemi inconnu, ce troisième tome n'est vraiment pas évident à aborder. Finalement, on a encore plus d'ombre sur le passé du personnage principal qu'au début. Alors on le refeuillette en arrière, et c'est là qu'on se dit, ouais, quand même, graphiquement, il assure sauvagement. Et voilà, mais là, sur ce troisième tome, j'ai eu plus de mal à le lire que les deux premiers. Le Samouraï Bambou, tome 3, dans la collection Made in Shikana, scénario d'Issei Fuku, est dessiné par Taiyo Matsumoto. Dans les bandes dessinées, alors là je vais venir à du lourd, du classique, du archi, archi, archi franco-belge pur et dur, à savoir Le Franc, les aventures de Guy Le Franc. Le tome 21 s'appelle Le Châtiment, scénarisé par Patrick Delperdange, dessiné par André Téman et Erwin Drez, et c'est sorti chez Casterman et créé par Jacques Martin. Alors pourquoi ce tome est important? Et bien figurez-vous que Jacques Martin nous a quittés en janvier dernier, que ça faisait quand même plus de 10 ans, je crois que ça fait bien 20 ans en fait, qu'il préparait en fait sa sortie de la scène pour que sa série continue à exister après. Ses séries plus exactement, puisqu'il est le dessinateur d'Alix, de Gênes,
Orion
et plein d'autres. Et s'il y a bien une chose qu'il faut se dire, c'est que ces séries vont continuer longtemps, car c'est une volonté de l'auteur de former la relève et d'assurer que son œuvre ne dépérisse pas, cadenassée par un quelconque testament. Il faut dire qu'il a été le chef du studio Tintin, et donc il a été bien placé pour juger la décision d'Hergé de ne pas laisser les assistants continuer les aventures de son reporter. Je parle de Tintin. Parce que justement, à propos de reporter, c'est avec la première aventure de Lefranc, La Grande Menace, que Jacques Martin a pu entrer dans l'équipe d'Hergé. Parce qu'il montrait qu'il savait dessiner les décors, qu'il savait dessiner les voitures, et qu'il avait un rendu quand même des personnages qui étaient très très loin d'être dégueulasses. On va plutôt de suite aborder le scénario du présent album. Prenant des vacances très méritées, le reporter Guy Lefranc est parti goûter à l'ambiance très grand spectacle d'Hollywood. Grâce à un confrère du Hollywood Reporter, il peut assister à la remise des Oscars dans la salle. Une soirée avec des stars, du glamour, mais aussi des imprévus. Un illuminé monte sur scène et balance des tracts au nom de l'église, de la foi et du pardon. Une secte qui semble très active sur Los Angeles, approchant nombre de journalistes, dont notre Frenchie en vacances, et semblant lié à des attentats dans le milieu du cinéma. Mais qu'est-ce qui n'est pas du cinéma Hollywood ? Entre les stars qui cocufient leurs producteurs, les nababs, les faux-semblants et les villas de rêve. Lefranc va donc bien, malgré lui, devoir changer le programme de ses vacances pour découvrir quel est le plan de cette secte et pourquoi elle s'obstine à écrire Hollywood avec un seul L. Alors par contrat, on est assuré qu'il y aura un album par an d'Alix, Lefranc, Gênes, Orion, bref des séries qui ont été créées par Jacques Martin. Et cela fait une production impressionnante, surtout que Jacques Martin s'était fait remarquer dans la bande dessinée franco-belge en mettant la barre scénaristiquement et graphiquement très haut. Alors ce nouvel opus du journaliste, premier après la disparition de son créateur, était donc plus qu'intéressant car j'avais déjà parlé avec Jacques Martin il y a une douzaine d'années quand il avait nommé ses dauphins officiels pour ses prestigieuses séries. Christophe Simon à l'époque, mais Christophe Simon a cédé la place à André Téman. Je m'attendais à ne pas bouder mes plaisirs. Et pourtant, je suis sauvagement resté sur ma faim. J'ai eu un côté mitigé, je veux dire, sur cet album. Parmi les déceptions, il y a la tentation du rétro. Les aventures de Guy Lefranc, créées par Jacques Martin, puis dessinées par Bob Demore, puis Gilles Chaillet, ont toujours été contemporaines dans les thèmes d'actualité, comme la course aux armements nucléaires, la déstabilisation économique, le danger biologique ou le terrorisme politique. Ici, nous sommes revenus dans les années 1950, depuis qu'André Téman a repris les rênes de la série sur Londres en péril. Et le péril, eh ben justement, il est là. Qu'on compare cette reprise backwards de Lefranc avec les aventures de Blake et Mortimer. À partir du moment où la série Blake et Mortimer a été reprise, a été recréée en 1995, la première chose qu'ont fait les auteurs, c'est reprendre Blake et Mortimer, mais dans les années 1952-53. C'était là le problème. Ce qui est indestin de comparer les deux séries, parce que justement Edgar Jacobs avait vu à l'époque d'un œil assez noir l'arrivée de la série de Jacques Martin dans le journal de Tintin. Il avait dit oh oui, mais c'est quand même relativement proche de Blake et Mortimer. Moi, ça m'agace un petit peu. Bah, gagné, voilà. Ensuite, il y a l'absence de Jean-Jean, jeune garçon qui suivait Guy Lefranc dans ses aventures.
Ouais, c'est le louveteau. C'est le Milou de.
Alors là, celle-là, je l'avais pas osé à l'écriture. Et pour cause, peut-être une décision éditoriale, la crainte d'un amalgame mal placé avec la pédophilie qui est tant à la mode de voir partout par notre gouvernement. Et qui permettrait théoriquement de censurer Internet, hein, c'est trop facile. Bref, il est vrai que Jean-Jean avait été demandé par l'éditeur de l'époque pour que les jeunes lecteurs puissent s'identifier au personnage de l'aventure comme il était possible via le prince Sénac dans Alix. Bon, le prince Sénac, un jeune garçon de 13-14 ans qui suivent dans les aventures à travers le monde notre intrépide aventurier, ça passe à l'époque de l'Empire romain. Mais à l'époque actuelle, ça pose sérieusement des questions. Et c'est peut-être ça qu'ils ont essayé d'éviter. Il y a aussi la caractérisation des traits de Guy Lefranc. Son visage est dur, anguleux, angoisseux.
On dirait qu'il est plus âgé.
Voilà, moi franchement j'ai trouvé ça dommage, surtout que du coup ils me font revenir de 40 ans en arrière, alors que dans l'Oasis il fait quand même beaucoup plus aventurier, il a les visages qui sont Non, mais je veux dire qu'il fait 30 ans, là, t'as l'impression qu'il a 40, 45 ans.
Ouais, non, mais même, il faisait quand même, même plus jeune. Hein, enfin, quand je lisais ça quand j'étais gamin, et il avait plutôt.
Fin 20 ans, début 30 ans.
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il était à peine plus âgé que Tintin, on va dire, hein, globalement, quoi. Mais enfin, bon, il avait pas atteint la trentaine, ça, c'est clair, quoi. Pour moi.
Tintin, il a pas atteint la puberté, tu m'excuseras. Mais...
Oui, non, ça va être
blague à part. Mais là, je trouve que ça.
Allô,
vraiment...
Albert Algou.
Oui, tu nous entends d'ailleurs. Moi, je trouve ça vraiment dommage, justement, que Guy Lefranc ait été maltraité de cette manière-là. Je veux dire, maltraité. Non, mais c'est ces quelques petits traits sur le visage, la coiffure qui est traitée d'une manière assez anguleuse, et le regard, je veux dire, il est toujours aux affûts, il est toujours inquiet et tout. Il n'a pas le regard, je veux dire, prêt à l'aventure. Là, c'est plutôt le mec qui subit l'aventure. Et je trouve ça vraiment dommage. De ce côté-là, c'est plutôt moyen, c'est un petit peu dommage.
Ouais, c'est un acteur qui paie ses impôts, quoi.
Le bon point, c'est que justement, nous avons une aventure sans la Némésis, l'archi-ennemi du journaliste, l'esprit démoniaque d'Axel Borg, qui n'intervient pas dans l'album. Le Franc, tome 21, Le Châtiment, d'après le personnage de Jacques Martin, scénarisé par Patrick Delperdange, scénarisé par André Téman et Erwin Dress, c'est chez Casterman. Le scénario est plutôt bien, c'est le dessin qui m'inquiète un peu, sérieusement. Après, je sais pas, Thomas, peut-être que tu lisais, toi, quand tu étais petit ?
Ah, pas du tout, c'est pas du tout le genre de BD personnellement qui m'attire et... Ah non.
Alors que du sport, regarde, lui, il adore. Je suis sûr qu'il y a des souvenirs émus de la tempête de feu ou le repère du loup.
Non, moi j'ai une action qui m'a toujours marqué. C'est à un moment, il est attaché dans une voiture décapotable comme ça, quoi. Et la voiture décapotable, elle va se jeter dans le vide. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend avec les dents l'allume-cigare. Et avec l'allume-cigare, il réussit à cramer ses liens pour sauter de la voiture juste avant qu'elle se balance dans le vide. C'est une image qui m'a toujours marqué, donc voilà quoi. Guy Lefranc, pour moi, c'est ça quoi. Disons, c'est l'aventure, mais également une espèce de journalisme à la Tintin, mais qui n'était pas une copie pure et dure de Tintin. C'est ça.
Alors, il y a quelqu'un qui a débarqué pendant la chronique et que l'on n'a pas vu depuis un bail entre 11h et midi et qui maintenant s'est retrouvé déplacé dans la prog musicale, dans la prog de la radio. Salut, ça faisait
salut,
un bail.
Salut, ça va.
Je suis désolé, tu sais que j'ai une mémoire des prénoms qui est absolument catastrophique.
Patrice.
Oui.
From Tinket Show.
Yeah. Et oui, et qui maintenant est le jeudi, si je me trompe. Hein.
Le mardi. De 17 à 19h.
Garde le micro en main parce que sinon on va pas s'en sortir. Est-ce que toi tu lisais justement les aventures de Guy Lefranc ?
Non, moi je lisais Tintin, Gaston, Boulébile, tu vois, là je vois un bout.
Bah justement, c'était dans le journal de Tintin, peut-être que tu l'aurais eu quand
Qu'est-ce qui était dans le journal de Tintin ?
Guy Lefranc.
Ah, je connais pas.
Ou
Alix, ça me dit quelque chose, ça me dit rien. Le Châtiment, là, je connais
bah
pas.
Non, c'est un nouvel album, donc ça vient de sortir.
Non, ouais, fan de BD, malheureusement, j'ai tout vendu, tu vois, tellement c'était la dèche. J'avais une collection, mon copain, un truc de fou, et,
ouais, bah, oui,
et voilà, j'ai dû m'en séparer, ça fait mal au cœur.
J'ose à peine imaginer. Ah, c'est un spécial guest, ça fait plaisir d'abord qu'il soit venu.
Eh ben, tu sais, je suis passé dans le coin avant d'aller au boulot, là, je me suis dit, tiens, on va voir s'il y a du monde un peu. Bah. On va fumer la clope de l'amitié et puis voilà.
Non, attends.
Hop.
Bah ça tombe bien, non, on a les messages d'utilité sanitaire puisqu'il est 12h33 et que la régie dit hop, la pub.
Le 24 juin 2010, les abattoirs de Toulouse fêtent leurs 10 ans avec Radio Éphémère. Une journée particulière, des émissions en direct, un plateau d'artistes, des animations, une soirée live musicale et projection vidéo. Les abattoirs fêtent leurs 10 ans. Un musée, un frac, une collection. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lesabattoirs.org. Éphémère.
Bon, bah heureusement que. Parce que là, on n'a pas le macaron à cette heure-ci. On n'y a pas droit, tu le sais, donc on ne pouvait pas. Dussin. Dustis Satoual. Il est pourtant déconnecté du net depuis ce matin.
Yes, yes, avec le numéro 125 mensuel de Spider-Man qui vient de sortir, et c'est un numéro spécial anniversaire. Pourquoi ? Parce que dans ce numéro, bien deux histoires, dont une complète, et qui en fait sont sorties en septembre de l'année dernière aux États-Unis et qui correspondraient en fait au numéro 600. 600e numéro de Spider-Man depuis sa création. Hein. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le numéro 100 est paru en 1971, 19 planches seulement, hein, dessinées par Jill Kane, scénarisées par Stan Lee. Le numéro 200 est sorti en 1980, 36 pages de Marv Wolfman et de Kevin Pollard. Le numéro 300 en 1988 de David Michelinie et Todd McFarlane, avec un certain Venom. Le numéro 400 de JM de Mattei, c'est Mark Bagley. Mark Bagley qui actuellement s'occupe chez DC de DC Trinity, c'est-à-dire Batman, Superman et Wonder Woman. Et le numéro 500, donc 100 numéros avant celui-ci, était écrit par JM Straczynski et dessiné par les deux Romita, Junior et Senior, pour marquer le coup. Et ce numéro 600, deux histoires donc, la première qui est parue dans le Amazing Spider-Man Annual 36, donc en septembre 2009, et qui s'appelle Peter Parker Must Die, dessiné par Pat Oliff et scénarisé par Mark Guggenheim. Et là, bien, c'est des histoires de revenants, on va dire, hein, parce que bon, il faut savoir que depuis le numéro 100 en France, l'édition française, eh bien, on a un petit peu revisité, on a dit stop, on arrête avec toutes ces conneries et tout, Spider-Man qui est marié, qui va avoir des gosses et tout, c'est n'importe quoi. Non, back to les fondamentaux, et on s'est dit, bon, bah, on va un petit peu réécrire l'histoire pour les gens, bah, qui sont pas trop au courant, hein, et donc, on fait revenir des super vilains qu'on connaissait nous, parce que bon, bah, on connaît ça depuis un peu plus de temps, mais il y a certains lecteurs, lectrices, qui ne connaissent pas très bien Spider-Man, qui savent pas trop.
Qui connaissent pas le back catalogue.
Ouais. Non, non, mais, qui ont vu les films, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé, pourquoi, qui sont les goyots, qui connaissent pas vraiment tout l'historique en long, en large et en détail de Spider-Man. Et bon, c'est pour ça qu'on a dit Brand New Day, c'est le départ d'une nouvelle ère pour Spider-Man. Et dans ce numéro, donc, le premier épisode, Peter Parker Must Die, eh bien, c'est à l'occasion. Alors, on est toujours dans l'actualité, hein, après l'arc très long du tueur au traceur, il y a eu le Non-Stop dont je vous ai parlé. Où Peter Parker s'en prend à Jonah Jameson qui bah, s'est fait délester de son journal le Daily Bugle, mais qui par la grâce de
est devenu maire.
Une petite magouille est devenu le maire de New York. Alors ça c'est quand même assez incroyable.
Mais non,
et encore
mais non.
Plus incroyable c'est
on
que
veut pas, on veut pas faire un parallèle avec Michael Bloomberg. Hein.
Non, 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 non parce que non il n'a pas trop grand chose à voir avec Bloomberg en fait. Hein. C'est ça qui est assez intéressant. Il garde son caractère de cochon. C'est toujours Jonah Jameson. Il n'y a pas de problème. Hein, mais seulement bon, là il a plus un journal à diriger. Il a une ville à diriger. Et là ça change un petit peu la donne. Mais ça n'empêche pas quelques petites pointes, on va dire, en ce qui concerne bah, le fonctionnement d'une ville, d'une mégalopole telle que New York et le rôle d'un maire, ce qu'il peut faire, ne pas faire et tout. Enfin bon, c'est assez rigolo. Il y a aussi le plus étonnant et qui concerne justement cette histoire et l'histoire suivante du numéro 600, savoir la rencontre, déjà la découverte du père de Jonah Jameson, donc Jonah Jameson Senior, et qui en plus tombe amoureux de Tante May. Et les deux, bon ben ça y est, ils ont presque publié les bans, ils vont se marier bientôt.
Devant le maire.
Et donc, dans Peter Parker Must Die, Peter Parker eh bien, se rend à Boston. Alors déjà, ça donne lieu à quelques petites vannes sur le fait que Peter Parker, c'est le justicier de New York, de Manhattan en particulier. Il sort jamais de sa ville. C'est un des seuls super-héros, d'ailleurs, qui reste toujours confiné dans sa ville. Hein, on le voit jamais partir ailleurs. Les autres super-héros, les Vengeurs, les X-Men et tout, tu peux aller voir en Californie, enfin un petit peu partout, ils vont même au Canada. Wolverine oblige et
Superman,
hein oh, non. Non Spider-Man reste non,
Superman.
Ah bah Superman il vole Superman, donc il y a pas de problème,
il va
partout.
À travers l'espace.
Ouais, on l'a même vu diriger
sa ville.
Hein
non non non, des fois il va sur un sur les terres parallèles, oh, il oui, fait non, des allers-retours.
Oui, 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 oui. Ah, ça il y a pas de problème. Et donc
non, non. Non non, mais Spider-Man c'est vrai que c'est tu le retrouves assez peu ailleurs.
Il y, y a Daredevil aussi qui est new-yorkais à fond.
Ouais, 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 mais bon, justement, on les voit au début, quoi, d'ailleurs, dans cet épisode et tout, où, bon, ils rendent la justice et tout. Allez,
t'as aussi Musulmane qui reste beaucoup à Marseille. Bon, excusez-moi. C'était le côté nazi qui ressort là.
Ouais, c'était l'humour, t'inquiète, spécial.
Pardon, j'arrête.
Donc, tu peux pas avoir le même humour de droite que moi, hein, tu peux pas.
Donc, ils sont à New York, ils sont à Boston, et pourquoi? Parce que, bien, Jonah Jameson, comme cadeau de fiançailles, veut faire un super cadeau à Tante May. Et quel est ce cadeau? Eh ben, en fait, c'est le fait de revoir toute la famille de Tante May du côté de son côté, pas du côté d'oncle Ben qui est mort, ça on le sait, hein. Et d'abord il lui file une photo, hein, regarde, tu vois, j'ai trouvé une vieille photo avec toi, t'es encore jeune et tout, quoi. Et ensuite, ah tiens, mais regarde, je vais te montrer un truc, et hop, une porte s'ouvre et tout, ah mais ils sont tous là en chair et en os. Et c'est là qu'on découvre Peter Parker, bien sûr, qui est de la partie. Et c'est là qu'on découvre les cousins, les cousines de Peter Parker. Il flash sur les trois cousines qui sont absolument canon, hein. De toute façon, c'est normal, c'est Peter Parker. Et aussi bah son cousin Ben Reilly, quoi. Et là on se dit, ah bah il y a quand même quelque chose et tout, enfin surtout pour ceux qui sont au courant vraiment de l'histoire. Et de ce fait, à un moment donné, ils sont en train de manger à table et Peter Parker va aux chiottes. Bah si, aux toilettes, quoi. Et, ah, et là il se fait attaquer sauvagement par un super vilain.
Oh, ça tombe mal.
Tout de noir vêtu.
Pour une fois qu'il se passe quelque chose dans les toilettes, dans les films d'horreur.
Ouais, et qui a des super griffes et tout. Toi, je vais te tuer et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce super vilain qui se nomme Velociraptor, eh bien, se trompe de type. Ce n'est pas Peter Parker qu'il veut choper, mais c'est en fait son cousin, Ben Reilly. Et parce qu'ils se ressemblent, il y a une ressemblance physique qui est assez étonnante, qui est accentuée par le fait que ce soit dessiné, bien entendu. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Ben Reilly, dans le temps, pour ceux qui connaissent Spider-Man depuis pas mal de temps, eh bien Ben Reilly, c'est lui qui avait pris l'identité de Spider-Man dans cette fameuse saga du clone. Ah ah, ça vous rappelle quelque chose. Et donc, eh bien, ce personnage donc qui interprète, enfin qui se glisse dans la peau de ce super vilain Velociraptor, est en fait une des victimes du clone de dans le temps, il y a vachement longtemps, et qui vient pour se venger. Seulement, bon, il se plante de personne. Il attaque Peter Parker, qui, bien entendu, pour se défendre, se transforme en Spider-Man et tout. Alors, c'est assez rigolo, parce qu'on le voit dans les rues de Boston, en train de se castagner avec le Velociraptor et tout. Puis, t'as tous les gens qui sont là, ouais, vas-y, Spider-Man. Comme le public à New York, quand il y a des bastons entre super méchants et Spider-Man, où t'as tout le public qui dit, ouais, vas-y, Spider-Man, casse-lui la tête et tout. Ouais, il nous emmerde et tout ça. Donc, ça nous donne une histoire assez rigolote, assez marrante. Et qui tranche un petit peu avec la production actuelle, avec les productions précédentes, parce que c'est un petit peu plus léger, c'est un petit peu moins violent. Hein, ça peut même se laisser lire par des pré-ados, voire des enfants d'un certain âge, hein, sans trop de dommages. Donc c'est assez ça qui est rigolo. Alors ça, c'est le plat de résistance, parce que le gros truc, c'est quand même l'histoire qui fait plus de 64 pages, histoire complète. Et qui est en fait le mariage de Tante May et de Jonah Jameson. Mais avant d'arriver au mariage, eh bien, on va faire revenir un autre super vilain, un des super vilains les plus connus, qui est d'ailleurs est dans le Spider-Man 2, Docteur Octopus.
Oh, ça faisait longtemps, tu vois.
Ça faisait longtemps. Et en fait, ça faisait longtemps. Et ce qu'on apprend dès le début, c'est que Docteur Octopus, ben, il veut marquer le monde de son empreinte une dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il est atteint du cancer. Alors ça a l'air pas très rigolo comme ça et tout. C'est assez rigolo parce que bon bah ça commence sur Docteur Octopus, c'est-à-dire Otto Octavius qui est chez son médecin et le médecin qui regarde plein de radios et qui lui dit ah oui mais là vous êtes cassé de partout, là vous avez le crâne fracturé et puis chaque fois Octopus qui lui raconte ouais là c'est quand je me suis fait dégommer par Hulk, là c'est quand Wolverine m'a cassé le bras et alors il y a tous les super-héros qui passent et tout qui sont passés sur le dos de Docteur Octopus. Et Docteur Octopus qui veut donc régir un petit peu le monde et rendre, selon ses propres termes, le monde meilleur selon ses vues, hein, eh bien, va essayer de court-circuiter, au sens propre hein, d'ailleurs, hein, parce que tout le réseau électrique tombe en panne et tout, il fait tout débloquer et tout, pour pouvoir contrôler, grâce à des nanobots et autres super technologies, le monde entier, hein, c'est-à-dire les bus, les transports, l'électricité, le gaz, enfin tout, absolument tout. Et de ce fait, eh bien, ça court-circuite, le mot est bien choisi, ça court-circuite complètement le mariage, les préparatifs de mariage de Tante May et de Jonah Jameson. Bon, bien sûr, il va y avoir toute la panoplie des héros Marvel, on peut dire, qui vont venir au secours indirectement de ce mariage qui risquerait d'être avorté. Hein. Alors, on a les Vengeurs Nouvelle Génération, on a bien sûr les 4 Fantastiques, Daredevil, bien sûr, qui vont filer un coup de main à Spider-Man pour essayer de dégommer Octopus, de telle manière à ce que le mariage ait lieu. Et le mariage a bien lieu, bien entendu, avec, cerise sur le gâteau, la surprise de fin de partie. Et là, bon, bah, on se dit... Ok, au départ on se dit non, c'est pas possible, non, ils ont quand même pas fait ça et tout. Mais comme on l'a déjà vu, quoi, durant tout l'épisode, que bon, ben, ils avaient vraiment plus aucun scrupule à nous ramener des vieux héros, des trucs qu'on avait déjà vus et revus.
Et bien, t'as le bouffon qui revient, non?
Non, justement.
Non, le non, gâteau...
ce sont deux épisodes où Norman Osborn, qui est toujours le super flic qui a remplacé Tony Stark, en fait, aux États-Unis, est absent. C'est-à-dire, on évoque son nom. Hein, il devrait être présent, mais il ne vient pas et tout. Et bon, ben, bah, ok, c'est pas plus mal parce qu'on a Docteur Octopus à la place. Mais c'est surtout la dernière image, hein, une dernière invitée surprise qui se ramène et qui sait.
Ah, on la reconnaît.
Et qui sait.
Oh. Ah, il y a la jolie rousse.
Eh ouais, la jolie rousse. Mary Jane, Mary Jane qui est de retour.
Marie-Juan,
ce qui laisse augurer donc ben, d'autres histoires qui seront certainement pas piquées des hannetons parce que même si c'est une histoire complète, elle rentre quand même dans la suite logique et dans l'histoire logique de ce qu'on connaît depuis ce fameux numéro 100, depuis ce fameux Brand New Day. Donc c'est le numéro spécial anniversaire, numéro 600. Spider-Man numéro 125 chez nous donc et il est dans tous les kiosques en ce moment et jusqu'à la fin du mois
au prix de 4€, c'est ça?
Exact.
Vous est présenté en 2D au RALA par Thomas.
Et oui, et aujourd'hui on parle du film que j'ai vu cette semaine, c'est Kick-Ass. Non, du sport, on avait déjà parlé.
Non, je crois qu'on a déjà parlé.
Ah bah zut alors. Bon, bah, j'ai plus ma croupe.
Et du film et de la BD.
Ah oh, bah mince.
Bon, allez. Bon, au revoir Thomas.
Allez, à la place, on va tirer des flèches alors. Ça vous va? Bon, allez, on attaque avec Robin des Bois aujourd'hui, le nouveau film de Ridley Scott avec Russell Crowe, Kate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt et l'inévitable actuel Mark Strong.
Ouais.
C'est marrant parce que tu vois un film hollywoodien aujourd'hui, le méchant c'est Mark Strong de toute façon. Des Mark Strong par-ci, Mark Strong avec les cheveux, sans cheveux.
Ah bah donc cette semaine t'as vu deux fois Mark Strong dans
tout à fait.
Il va nous coller la musique de Bryan Adams.
Non.
Bah si,
non.
Non mais c'est marrant parce que quand tu dis ah oui c'est le film de Robin Hood avec Kevin Costner, tout le monde dit ah oui Bryan Adams. Voilà. Allez, alors.
Des générations de Kevin.
On se les
tape sur les forums à cause de ce film.
Ah ben, en plus le film avait été mis en scène par un autre Kevin qui était Kevin Reynolds d'ailleurs. Alors.
Kevin Hooks.
Hein?
Non, rien.
Allez, alors cette fois-ci, le Robin, c'est Robin Longstride, qui est archer dans l'armée de Richard Cœur de Lion.
Alors attends, parce que, excuse-moi de te couper, il voulait prendre Muriel au début pour faire Robin, et en fait, elle n'a pas voulu. Muriel Robin.
Oui, oui, elle était prise par les.
Tu sais que c'est pour ça.
Je vais faire un autre truc.
Là. Non, mais tu sais que c'est pour ça que les blagues, on les écrit à l'avance. Hein,
non, mais faut pas préparer. Faut que ça vienne tout de suite. Là.
Nous avions quelqu'un dans l'équipe qui faisait meuh chaque fois qu'il y avait une blague qui tombait à plat. Voilà, allez, Robin Longstride, donc, qui est archer dans l'armée de Richard Cœur de Lion. Richard qui revient des croisades en Terre Sainte et qui pille des châteaux en France au passage pour financer. Pour financer une partie de sa campagne, parce qu'il a un peu mis la trésorerie à sec de la royauté en Angleterre, donc ça commence à grincer les dents. Exécutant la dernière volonté d'un mourant, Robin ramène donc son épée à son père, à Nottingham. Et donc il usurpe l'identité du défunt, parce que le père du défunt lui demande « Tiens, ce serait bien que tu restes quelques jours ici pour profiter et tout. » Et il se plaît justement à protéger les gens de cette contrée. De son côté, le chevalier de la couronne Godefroy, à la solde des Français, fait assassiner Richard et place son frère Jean, plus vulnérable et surtout plus incompétent, sur le trône d'Angleterre en vue d'un débarquement des Frenchies. Voilà, alors on est très loin de l'histoire de Robin des Bois habituelle, puisque
ouais,
là c'est évidemment.
Et
c'est...
puis tu parles de pillage et tout ça, je crois que je me suis trompé de fond sonore alors.
Pourquoi ?
C'est pas une ambiance mignonne et tout ça ?
Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec la version cheveux au vent, Kevin Costner.
Dis donc, c'est pas toi qui m'avais dit que c'était que tu voulais chroniquer Gladiator 2, là, aujourd'hui ?
Alors voilà, j'y viens. Alors, le film, justement, on pourrait dire que c'est un mélange entre Gladiator 2 et Kingdom of Heaven 2. Puisque déjà, ce Robin des Bois, c'est la suite, mais directe. Il commence là où se termine Kingdom of Heaven du même Ridley Scott, puisque ça se termine sur Richard Cœur de Lion qui prend le relais des chevaliers des Templiers qui avait là et qui dit tiens on va reprendre Jérusalem parce que y avait Balian d'Ibelin, le héros incarné par Orlando Bloom, qui avait réussi à sauver la vie de ses hommes contre le fait de livrer Jérusalem à Saladin. Et c'est vrai que là on revoit Richard Cœur de Lion, je crois que c'est même pas le même acteur, donc qui revient des croisades pour aller rejoindre l'Angleterre. Et pourquoi c'est un mélange avec Gladiator? Déjà parce qu'il y a Russell Crowe qui est un peu dans le même registre, hein, gars bourrin, précipité sur le devant de la scène malgré lui, qui va se révéler un leader militaire imbattable. Et il a un peu la même coupe de cheveux d'ailleurs. Et bon voilà, c'est un peu ce qu'on, à la fois la qualité et ce qu'on pourrait reprocher au film également, puisque quand t'as vu Gladiator, qui était quand même un sommet, Robin des Bois, ils font
ça
un peu, ils se répètent un peu quoi. Alors je l'ai dit, le film se clôture là. Bon non, je l'ai pas encore dit, mais le film se clôture sur Robin des Bois, là où commence la légende. Donc c'est à la fin du film que Robin devient Robin des Bois. Jusqu'à présent, en fait tu vois le Robin qui va à Nottingham, qui fait connaissance de Belle Marianne. Il y a le shérif de Nottingham, mais il est pas encore le sadique qu'on connaît. Le prince Jean, c'est le roi Jean. Donc lui il fait l'apprentissage de comment gérer les sujets, c'est plus branché politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait absolument qu'ils s'unissent tous les chefs des tribus avec le roi Jean pour contrecarrer l'invasion des Français. Alors là, c'est vrai que c'est un peu l'union sacrée en Angleterre, c'est un peu comme William Wallace, Braveheart, il faut fédérer un petit peu les chefs, les clans qui sont. Parce qu'en fait, le roi Jean, Richard Cœur de Lion, déjà, il avait appauvri le royaume, donc les chefs des tribus, ils sont pas trop contents, et puis le roi Jean, on voit, c'est un peu un abruti, donc les gens ils veulent pas être derrière lui. Heureusement il y a Robin qui va dire attendez, oui moi je détiens la science infuse et je sais fédérer les gens, allez-y sire, dites un ordre et puis les gens vont vous suivre. Alors Ridley Scott nous avait habitué à plus de subtilité, puisque on parlait de Gladiator et de Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven justement, ça parlait, c'était le royaume de la conscience, donc c'était, il y avait des enculés de côté, côté musulman, côté templier. Il y avait aussi des gens bons de côté aussi. Gladiator, tu vois que les motivations du méchant, c'était pas l'enculé noir, c'était déjà brillamment interprété par Joaquin Phoenix. Donc il a prêté Commode, qui était sommet de subtilité. Tu voyais que le gars il souffrait de pas avoir été aimé comme il fallait par son père. Ah ouais, ouais. Et puis même le personnage était vraiment avec des subtilités, tu voyais pas que c'était juste le gars qui pensait qu'à bon, c'était un peu ça aussi, mais il avait quand même des motivations qui étaient assez compréhensibles. Donc c'est vrai que quand tu pars de Gladiator et de Kingdom of Heaven, t'es en droit d'attendre de Ridley Scott, tu dis bon voilà, il a son Maximus, il a une période qu'il affectionne, la période du Moyen-Âge, bah finalement tu as une impression de déjà-vu. Alors, quand tu vois le discours de Scott et de Russell Crowe, il dit « Oui, on s'est embarqué dans cette aventure, c'était pas pour faire une adaptation de plus de Robin des Bois, surtout que pour nous, il n'y en a pas une qui nous satisfasse. La seule qui trouve grâce à nos yeux, c'est la parodie de Mel Brooks. » Et puis alors, Russell Crowe, il a dit...
À cause du bouquin de cul en relief.
Je sais pas, j'ai pas vu.
Men in Tights, tu l'as jamais vu?
Non.
Aïe, aïe, aïe.
Et Russell Crowe a même dit que la version avec Kevin Costner, ça ressemblait à un clip de Bon Jovi.
Trompé. C'est trompé en sortant la vanne.
Et
alors, de Bryan Adams aussi.
C'est un clip de Bryan Adams en fait.
Alors voilà, on a trop vachement de scènes de déjà vu. T'as la scène du débarquement, t'as Robin des Bois qui fait ouais, je suis barbare, on me la fait pas à moi, etc. Les méchants sont super caricaturaux. Bon, le roi Jean, ça va, c'est je suis un traître, je suis un méchant, je trahis mes hommes et tout. Bon, voilà. Voilà, le gros truc kitsch du film, c'est que Robin Longstride, il a un passé qui fait qu'il y avait quand même un terreau fertile pour qu'il devienne le leader des basses gens. C'était pas juste un gars qui avait usurpé une identité, qui avait rapporté une épée au papa du défunt. C'était quand même un gars qui était prédisposé, donc il y a des flashbacks, et il dit « Eh oui, tu sais, ton père, c'était pas n'importe qui. Ah oui, il y a des flashbacks. » Mais c'est vrai que en revenant sur les lieux, il y a tout un pan de mon histoire que j'avais oublié. Voilà, bon, c'est ça graisse un peu. Côté casting, bon, ben Russell Crowe, c'est juste, c'est l'antithèse de Kevin Costner, donc quelque part, tu vois Maximus avec en vert et avec un arc, bon, ça le fait. Voilà, c'est le gars, tu sens qu'il faut pas trop le faire chier, il y a un coup de Kotoro, bon, le mec, il passe pas trop son temps à rigoler, et puis c'est juste là pour des foiriers du français et du traître. Cate Blanchett. C'est bon, c'est une belle Marianne, enfin plutôt Marianne que belle. Enfin, elle est quand même superbe, c'est Cate Blanchett, mais elle incarne une Marianne qui hésite pas à mettre à patauger dans la boue pour aller aider les basses gens, pour aller semer, pour se nourrir. C'est une nana qui a exploité et tout, qui a connu que pendant 9 jours son défunt mari. Enfin voilà, c'est quand même ancré dans une réalité de l'époque et tout. Et puis c'est pas la belle Marianne qui dit oh là là, je suis une femme à sauver. On voit les tours ralenties qui jouent, voilà. Et non, c'est du tout. Non, c'est, je pense qu'elle enterre toutes les belles Mariannes qu'il y avait avant elle. Donc la Cate Blanchett, ça va, elle est plus couillue même que certains gars dans le film, ça va.
Elle n'a pas besoin d'une gouvernante pour y servir de chaperon, quoi.
Exactement. Voilà, donc Robin des Bois, ça reste correct, mais c'est vrai que si on a super kiffé les deux films dont je parlais, donc Kingdom of Heaven et Gladiator, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Mais sinon, ça reste quand même un honnête divertissement et puis une bonne réinterprétation du mine de Robin des Bois. C'est juste que voilà, à la fin, bah, tu vois, ah ben bah, ouais, tout ça pour ça. Bon.
Et niveau public, c'est pas destiné à un public un peu jeune, non, quand même?
Non, pas du tout, non.
J'ai pas vu, hein, mais je sais pas par rapport
à ce que
c'est
le même public que Gladiator, c'est-à-dire que ça charcle, il y a du sang, c'est une grosse bataille, non, ça va, c'est pour les amateurs de Moyen-Âge, grosses épées et tout. Donc c'est réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt et Mark Strong, et j'enchaîne cette chronique, on va pas passer directement à la chronique de Luce, avec un petit quiz, puisque l'ami Ridley Scott, c'est pas un genou. Il a quand même fait pas mal de trucs dans sa carrière. Alors, je vais vous faire un quiz Ridley Scott et je vais vous donner les pitchs des films. Vous allez me dire si ce sont des films de Ridley Scott ou non. Et si vous pouvez deviner vous pouvez retrouver le titre du film, c'est
bien. Il y en a un qui n'est pas revenu pour rien. Alors, allons-y.
Ouais, mais il triche, il a l'ordinateur, lui.
Non, c'est juste pour le fonctionnaire. Vas-y.
Allez, on commence par du facile. L'histoire d'un flic du futur qui rêve de licorne.
Ah, Blade Runner.
Et est-ce que c'est de Ridley Scott ou non?
Oui.
D'accord, t'as tout bon pour l'instant. Domino Harvey, jeune mannequin qui devient chasseuse de primes. Domino, et est-ce que c'est Ridley Scott ou non?
Oui.
Eh non, c'est un autre Scott, c'est son frère.
C'est Tony Scott. Non, je savais qu'il allait vous baiser la gueule avec Tony.
Allez, l'histoire d'un banquier d'affaires british qui est pris de passion pour un vignoble provençal.
Mmh.
On sèche.
Allez, c'est une grande année avec Russell Crowe et Marion Cotillard. Et bizarrement, c'est réalisé par Ridley Scott.
Oui, ça, il me semblait bien, mais j'étais pas sûr du truc.
Deux nanas parties sur les routes en voiture.
Oui. Ça, c'est
Thelma et Louise.
Voilà, très bien. On t'entends pas trop, toi.
Ah, alors là, moi. Culture cinématographique, mon pauvre, à part les films de cul sur YouPorn.
T'es mal tombé avec nous.
Une nana athlète qui court avec un marteau.
Ça, c'est la pub d'Apple, oui.
Et oui, donc
c'est la pub séminale du Mac qui était sortie pour le Super Bowl.
Pour le Super Bowl en 84, réalisé par Ridley Scott, qui était élu la meilleure publicité de l'histoire de la télévision américaine.
Et pourtant diffusée que deux fois.
Et qui a été revisitée parce que maintenant ils ont rajouté un iPod sur la nana. J'en suis où? Je regarde mes numéros. 5. Alors, un capitaine de bateau traduit en justice suite au meurtre d'un gentil dauphin par un jeune marin cervelé. Ça fait peur, hein?
Capitaine Haddock, je sais pas.
Il s'agit de la période creuse de Ridley Scott. C'est réalisé par Ridley Scott, effectivement. Il s'appelle L'âme de fond avec Jeff Bridges.
Oui, ah, effectivement, il peut dire.
Ça, c'est les DVD à 1€ que tu trouves au marché, non?
Ouais, c'est ça. 1€ les 4. À peu près, oui, oui, oui. T'as la couverture, c'est Jeff Bridges au vent avec derrière, t'as des vagues. Un cannibale ex-docteur planqué en Italie qui fait bouffer aux gens leur propre cervelle.
Eh ben, Hannibal.
Hannibal, ouais.
Le silence des agneaux.
C'est pas de lui, ça.
Et s'il a réalisé la suite.
Si, la suite, c'est la suite. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Le premier, c'est dans Jonathan Demme.
Voilà, exactement. Ensuite, un commandant de sous-marin russe barbu voulant passer à l'ouest avec l'aide de Jack Ryan.
À la poursuite d'un tombeau.
Oui, mais c'est pas de Ridley Scott, ça, j'en suis sûr.
C'est Spielberg, ça.
Non.
Non, c'est de.
Il tue ce film. Défense.
Et c'est du John McTiernan. Bien joué, les gens. Et donc le dernier, Demi Moore qui s'est rasé le crâne.
Alien.
Armes égales.
Non.
Armes égales, effectivement. Merde, et est-ce que c'est de
Viggo Mortensen?
Je confonds Demi Moore et Sigourney Weaver.
Et est-ce que c'est de Ridley Scott ou non?
Oui. C'est de Ridley Scott.
Ouais, il me semble.
Ouais, ben vous avez. Bon, Cassel, effectivement.
Il me semblait bien!
Voilà. Bon, ben bravo, vous en êtes bien tiré.
J'ai trouvé deux films, c'est déjà pas mal.
Je me suis surpris là. Le niveau.
T'as pas une question sur Duelist?
Oui, bah il y avait plein. Il y avait Duelist, 1492, Christophe Colomb, Alien, Traqué, Black Rain. Non, il y en a quand même d'autres des costauds. Hein.
Ok. Bah, Tus. Back to the 60s. Ah non, tu as autre chose en main.
Ouais, peut-être sortie DVD de il y a quelques temps, on va dire. Film sympathique. Au demeurant, mais casting béton, c'est le premier film d'un réalisateur qui porte un nom à coucher dehors.
Ah, d'anglais, quoi.
Je dirais irlandais, Martin McDonagh. Je dirais plutôt irlandais, tu vois. Et bon, par contre, ne pas se laisser abuser par le sous-titre, la Belgique, ses moules, ses frites et ses tueurs à gages. Parce que bon, c'est vraiment pas ça, pas du tout. Le titre original, c'est In Bruges, et en français, ça s'appelle Bon baiser de Bruges, avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes dans les rôles principaux.
Ralph Fiennes, ouais, quand même.
Hein?
Ralph Fiennes, on dit.
Ouais, mais moi, je prononce à la française, monsieur.
Monsieur.
Alors, le pitch est vachement simple. On voit débarquer à Bruges deux types aux mines un petit peu patibulaires, Colin Farrell et Brendan Gleeson, et pendant une bonne vingtaine de minutes, on sait vraiment pas ce qu'ils sont venus foutre à Bruges. Parce que bon, bah, ils arrivent là-bas.
On s'en doute un peu quand même.
Ouais, mais on sait pas trop quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas pourquoi ils sont à Bruges. Au départ, ils sont là, alors ils passent le temps, ils prennent une chambre d'hôtel et ensuite ils vont passer le temps plus ou moins à glander, à visiter les musées, à pas trop se faire chier quoi.
Mais en fait, je me souviens bien, je crois que c'est marqué derrière, c'est pour ça qu'on sait. Si tu lis derrière, non, enfin moi je sais que j'avais déjà compris le film en lisant le petit texte derrière, le petit résumé où ils te disent que en fait ils sont là parce qu'il y en a un qui va devoir faire le travail.
Ouais. Alors,
je veux pas parler trop.
Au fur et à mesure du film, eh bien, on se rend compte que Colin Farrell a un petit problème. Il fait des rêves un petit peu zarbis et tout. Il lui est arrivé une couille. Et on se rend compte que Brendan Gleeson, qui est nettement plus âgé que Colin Farrell, ça c'est clair, le chaperonne un petit peu et est là un petit peu pour prendre soin de lui. Prendre soin entre guillemets,
voilà, ouais.
Hein, parce que à partir du moment où Brendan Gleeson, qui est en rapport avec le boss, bon là on comprend que ce sont des tueurs à gages et tout, mais qui sont plus ou moins en vacances à Bruges, c'est-à-dire ils sont pas là pour un contrat.
Ils sont en quarantaine, hein, plutôt, les vacances.
C'est-à-dire, bon, bah, ils ont effectué une mission, et puis bon, on les fout un petit peu au vert, comme ça, les dégager, ou quitter l'Angleterre et tout. Alors, on sait pas pourquoi au départ et tout, et on apprend quand même que c'est parce que Colin Farrell, dont c'était le premier contrat, eh bien, a plus ou moins foiré ce contrat, hein, parce qu'il devait dégommer un prêtre, et en fait, il dégomme le prêtre, et un gosse qui se trouvait également là, dans l'église. Donc là, ça la fout mal et tout, Colin Farrell, est bon, qui joue le rôle d'un mec assez jeune et tout, vraiment le cono de base, on va dire, hein, le mec pas très évolué et tout, se débat un petit peu avec ses démons intérieurs, alors pour se changer un petit peu les idées, lui, il est vachement plus terre à terre que Brendan Gleeson, qui lui va aller dans les musées, qui va aller dans les églises, qui va se renseigner sur le pourquoi du comment.
Il y en a un qui kiffe la ville et l'autre qui la déteste.
Les canaux, ouais, c'est joli comme ville, alors qu'ils sont en plein hiver et tout, il fait gris tout le temps, enfin bon, il se les pèle et tout. Colin Farrell, lui, c'est plus terre à terre et tout. Allez, je vais au bistrot, je vais se draguer une nana.
C'est des meufs, quoi.
Allez, on va essayer de tirer un coup
pour changer les idées. Trop de composition, on voit.
Non, pas du tout. Brendan Gleeson est toujours en rapport avec le boss, c'est-à-dire le type qui les a envoyés là, et qui, plus ou moins le mec qui les commissionne et tout, qui leur dit, ok, vous allez là, vous faites ci, ça, et vous fermez votre gueule. Et puis, c'est moi qui paye de toute façon, quoi. Et on se rend compte qu'en fait, le boss, interprété par Ralph Fiennes, va donner l'ordre à Brendan Gleeson d'exécuter Colin Farrell, parce que Colin Farrell, fait une couille, justement, quoi, descendu ce gamin, et que dans son organisation, ça se fait pas, quoi. Le mec qui se plante, on le plante, et puis, on dégage, tout simplement. Alors, Brendan Gleeson, au départ, tel le bon soldat et tout, aguerri et tout, va se dire, ok, je le fais, on me dit de le faire et tout, y a pas de problème, tranquille. Et ça va pas exactement se passer comme ça, parce que au dernier moment, non, ça se fait pas et tout, parce que Colin Farrell, en même temps, là la scène est assez incroyable quand même, au moment où Brendan Gleeson a le flingue et va dégommer Colin Farrell, Colin Farrell,
il est
complètement suicidaire,
veut
se tirer une balle dans la tête, et donc de ce fait, l'autre, au lieu de le tuer, lui dit non, tu vas pas te tuer, décolle pas et tout, t'as encore toute la vie devant toi, t'es jeune, fais pas le con, et tout ça, quoi. Et de ce fait, Ralph Fiennes va devoir intervenir pour faire le boulot lui-même, c'est-à-dire dégommer les deux, en fait, hein.
L'un qui
doit être dégommé parce que c'est le contrat, le postulat de base dès le départ, et l'autre parce qu'il n'a pas rempli son contrat, Brendan Gleeson. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que les trois acteurs jouent super juste, impeccable, et sont vraiment top.
Le méchant, il a vraiment le rôle du méchant, il lui colle à la peau, quoi.
Alors, Ralph Fiennes,
la gueule qu'il a, quoi.
Ralph Fiennes, on l'avait jamais vu dans ce registre-là, à savoir un chef de gang ultra violent, qui a quand même sa petite vie de famille, pépère et
avec
tout,
des principes de dingue, c'est ça le mec.
Des principes incroyables.
Un truc de fou, c'est-à-dire qu'il est prêt à se suicider lui-même s'il fait la connerie, quoi.
Voilà, c'est ça, quoi. C'est ce qu'il dit, hein. On fait le boulot, sinon, on dégage, hein.
Il n'y
a pas de problème. Et Ralph Fiennes, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on l'avait jamais vu dans ce genre, enfin, moi, personnellement, j'avais jamais vu dans ce genre de rôle, où, dans une phrase, il y a au moins deux fois le mot fuck. Et dans chaque phrase, il y a un fuck.
Ah oui, non,
dégage,
d'habitude,
quoi.
C'est pas ça, hein.
C'est pas ça. Lui, c'est plutôt, les rôles un petit peu plus, on va dire,
sophistiqués.
Là, non, il est dans un monde très sophistiqué, c'est-à-dire que ok, il est au sommet de la pyramide, mais par contre son langage est super fleuri, c'est pas piqué d'un ton. Langage, et d'ailleurs il faut dire que au niveau des dialogues, c'est assez fleuri aussi, ça lorgne un petit peu. Tarantino oblige, il a ouvert la voie, et ben là beaucoup de scénaristes, parce que McDonough est également le scénariste de ce film, hein, et réalisateur également scénariste, et là on peut dire qu'il y a quelques dialogues qui lorgnent vraiment sur du dialogue à la Tarantino. On parle de tout, de n'importe quoi. Il y a un tournage de film qui se passe en même temps à Bruges, et donc Colin Farrell, en essayant de draguer une nana, va s'immiscer un petit peu dans le tournage du film. Les acteurs traversent à un moment le tournage du film et tout, ce qui donne une petite dimension onirique et tout, qui est pas dégueulasse en fait, parce que ça ne jure pas par rapport à la ville en elle-même, par rapport au décor naturel lui-même. Ça, c'est assez bien foutu aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup, énormément de scènes qui sont tournées dans Bruges et dans les décors naturels de Bruges, et qui sont bien, vraiment bien rendues, hein, en particulier le beffroi là, qui sont tout en haut là, le beffroi de l'église. l'église là.
Ouais.
Hein, c'est assez bien foutu. Alors c'est tout à fait savoureux de toute façon. Colin Farrell est excellent. Brendan Gleeson, bon bah on le connaît un petit peu moins. C'est un acteur anglais qui est très très connu.
Oui, mais sa gueule, hein, en fait, pas ceux de problème. Qui connaissent pas.
Ouais, mais lui, là, c'est quoi le film qu'il avait fait là où il joue, tu sais, le,
le général,
le parrain de la de, merde de l'IRA là.
Mais le général.
Ouais, le général.
C'est le général, ça s'appelle.
Ouais. De John Boorman, ouais.
Oui, il est toujours suivi par des flics, là. Il remplit
ouais,
ça, ça. Il défonce ce film. Trop bien.
Et donc, Ralph Fiennes, hein, bon, là, qui nous épate parce que bon, il est dans un registre complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, hein. Les autres petits rôles, on va dire petits rôles, les autres rôles secondaires. Oh. La belge blonde est aussi excellente.
Et la brune, la blanche?
son petit copain est pas mal aussi, un mec complètement déjanté et tout, hein. Ce sont deux dealers et tout, qui fournissent justement en dope l'équipe de tournage du film.
Ah, il y a des petites surprises dans le
et
film.
Et le nain aussi, qui peut être le midget, comme ils disent. Non, on ne dit pas un dwarf, on dit un midget. Enfin bon, en version originale, c'est assez rigolo, quoi. De toute façon, quoi, ça se laisse voir et tout. Un faux rythme au départ, hein. C'est très mou, très, ça s'accélère au fur et à mesure. Ouais, ouais. Et ça monte crescendo à la fin. À la fin, c'est le feu d'artifice. C'est vraiment un très bon petit film. Très bon premier
film.
Tout
à l'heure, tu vois, je te disais que j'avais pas kiffé, mais plus on en parle, plus je me remémore. Et en fait, c'est vrai que c'est un petit film qui se laisse regarder quand même.
Faut pas se laisser avoir par le début du film qui est vraiment très lent, très cool, qui correspond justement au climat et à l'environnement général. On est en Belgique, au plein milieu de nulle part et tout. D'ailleurs, bon, il y a beaucoup de dialogues qui ont lieu sur Bruges, sur la Belgique, mais qu'est-ce que c'est ce pays. Enfin bon, on voit bien que ce sont des Anglais et tout. Il y a également des vannes entre Irlandais et Anglais. Enfin bon, c'est très finement écrit de toute façon et c'est là que le film a vraiment très très réussi. Bon, Baiser de Bruges, donc In Bruges en version originale, hein, donc de Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes. Et c'est pour toi.
Cadeau.
Ah bah je vois que t'as mis la musique
Damien Vallon.
Adéquate.
Oui.
Alors notre cher Denis Hopper est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Hein
oui, bah en début de semaine.
Et bon, on va quand même un petit peu lui rendre hommage en revisitant un petit peu sa carrière, hein, qui est quand même une super carrière, hein, que beaucoup d'acteurs enviraient à mon avis, hein, parce que il est né en 36 et son premier film, il le fait, il a même pas 20 ans, il a 19 ans, hein, 1955, un film de Nicolas Ray qui s'appelle Rebel Without a Cause, avec un certain James Dean dedans. Hein, c'est pas n'importe quoi quand même, premier film et tourné dans un des grands classiques du cinéma américain. L'année suivante, un autre super grand classique, toujours avec James Dean. En fait, s'il a réussi à rentrer dans ce film, dans le premier Rebel Without a Cause, La Fureur de Vivre en version française, c'est parce qu'il était pote avec James Dean. Ils se côtoyaient plus ou moins et tout, ils fréquentaient les mêmes bouges, on va dire. Ils s'amusaient de la même façon, enfin pas tout à fait, parce que James Dean c'était quand même assez spécial.
Ils avaient le même fournisseur apparemment.
Ouais. Ça c'est, il y a pas de problème. L'année suivante donc toujours avec James Dean, mais également avec Rock Hudson, Elizabeth Taylor, c'est Géant de George Stevens, quoi, qui est pour moi le meilleur film de James Dean. Quoique les trois films qu'il a tournés, ils sont vraiment tous excellents, hein, Alice Deden également, quoi. En 56, la même année que Géant, il tourne également dans Gunfight at OK Corral, l'original de John Sturges. 58, il fait From Hell to Texas, La Fureur des Hommes avec Henry Hathaway. Après début des années 60 et tout, il y a une petite parenthèse, grosse parenthèse, Roger Corman, bien sûr, où il se familiarise avec d'autres acteurs spécialistes de chez Corman, à savoir un certain petit jeune qui débutait, Jack Nicholson. Il décide de refaire un petit peu plus de pognon parce qu'il a déjà dans l'idée de commencer à réaliser des films et tout, mais pour réaliser le film qu'il veut faire, eh bien c'est pas du côté des producteurs et des investisseurs habituels des grosses maisons de cinéma qu'il va pouvoir trouver les financements. Donc il se dit ok, je vais retourner dans le cinéma traditionnel, le cinéma grand public, me faire des bons cachets et tout, parce que bon bah ok, j'ai quand même une carte de visite assez bonne, hein, avec les films que je viens de citer, donc je peux quand même demander pas mal de pognon. Et c'est en tournant donc en 67 dans Cool Hand Luke, Luke la main froide avec Paul Newman de Stuart Rosenberg, puis dans True Grit, hein, Henry Hathaway, dans le 69, $100 pour un shérif avec John Wayne, où là aussi il ramasse pas mal de pognon, et ce pognon lui sert justement à pouvoir réaliser son premier film, Easy Rider, en 1969, avec les Peter Fonda, Jack Nicholson et tous les autres. Il réalisera d'autres films en 71, The Last Movie, c'est un film moins connu de Dennis Hopper, mais qui est d'un registre différent, c'est pas du tout la même chose, mais qui est pas mal aussi. Puis il jouera dans Mad Dogs, dans Trax, des films de réalisateurs passés, non pas à la postérité, mais à l'oubli, pur et simple. Puis il remonte un petit peu la pente, où en 77, il nous fait quand même Apocalypse Now. À peine terminé le film, il s'embarque pour l'Allemagne pour jouer dans L'ami américain de Wim Wenders, c'est quand même pas mal. Coppola et Wenders la même année. Out of the Blue, un autre Dennis Hopper en 1980. Il fait Osterman Weekend, l'un des derniers Sam Peckinpah, en 1983. Il est dans le Blue Velvet de David Lynch en 86. Un petit peu plus tard, il joue dans un petit bijou qui est un petit film pas du tout connu d'un réalisateur pas connu qui s'appelle John Phillips. Qui s'appelle The American Way, mais qui est un bijou de contestataire assez incroyable. Faut vraiment voir ce film, essayer de vous le procurer et tout, c'est vraiment jouissif. C'est pas mal, hein, c'est l'histoire de types qui sont contestataires et tout, et qui sont tout le temps en l'air dans une super forteresse de l'armée américaine et tout, et qui balancent
des... Il a aussi été diffusé sous un autre, sous deux noms d'ailleurs, ce film. Il a une distribution.
Captain quoi. Blood,
ouais, Captain Blood, voilà.
Captain Blood aussi, quoi, bien sûr.
C'est chez moi que tu l'as vu d'ailleurs.
Oui.
Et ou de cet avion, il balance des programmes de télé, de radio pirate et tout pour informer.
Faut pas dire
les
que
gens,
ça a donné une idée à Frazier qui a voulu essayer d'acheter.
Non, pas du tout. Et par la suite, dans les années 90, bon, ça va un petit peu être plus de l'alimentaire, on va dire, où il va plus jouer sur le registre. On embauche du Hopper pour faire du Hopper, hein, et puis là, eh bien, on va le retrouver jusqu'à sa mort, eh bien, dans pratiquement une flopée assez incroyable de téléfilms. Hein, mais il faut dire que bon, il avait plus ou moins fait une parenthèse sur sa carrière cinématographique pour se consacrer à un autre art qui était la peinture.
Dennis Hopper, il faisait c'était un putain de photographe.
Et photographie,
et ouais. Alors, bon, on va citer ses derniers rôles. Donc, il avait fait le méchant dans Speed. Il avait eu un rôle il avait des petits rôles aussi. Il faisait le père de Christian Slater dans True Romance, qui avait une tirade monstrueuse sur le fait que la Sicile avait les Siciliennes avaient été engrossées par des Noirs. Il sort ça à Christopher Walken qui joue un parrain italien et tout. C'est vraiment extra. Et en fait, Dennis Hopper, la période Easy Rider, on en apprend plus en lisant le bouquin Le Nouvel Hollywood de Peter Biskind, où justement il raconte que comme c'était quand même quelqu'un qui était chargé, qui était alcoolique et chargé de coke tout le temps. Donc,
et à mon avis, le film n'a pas été fait à jeun.
Oui.
Alors dans Easy Rider, il faut savoir que dans la scène inaugurale, quoi, c'est-à-dire le fric qui leur permet de faire leur road trip de Californie jusqu'en Nouvelle-Orléans, puisqu'ils veulent aller voir le carnaval de Nouvelle-Orléans, il y a la scène mythique, hein, où ils vendent de la coke à Phil Spector, qui joue son propre rôle en plus, quoi, et qui s'envoie un super gros rail de coke avec sa petite cuillère en argent qu'il a accrochée autour du cou. C'était de la vraie coke, quoi, c'est-à-dire que c'était pas de la farine. Ils avaient vraiment pris du bon produit et tout, parce que Spector ne voulait pas s'y faire autre chose que de la coke à l'époque.
Oh là là. Et alors, il y a une anecdote dans le livre Le Nouvel Hollywood où il y a une altercation entre un producteur et un réalisateur d'un film, et t'as Dennis Hopper qui est à poil au milieu d'une partouze dans la salle qu'il avait improvisée dans une salle de montage. Il assiste à l'altercation et dit putain, c'est génial, il nous faut une caméra, faut filmer ça.
Donc, ouais, juste à signaler quand même que il a été diffusé hier, hein, si vous l'avez manqué, sur TCM Cinéma Easy Rider.
Oui.
Et je suis justement sur le site de la chaîne pour essayer de voir s'il y a une autre diff, mais normalement je crois qu'il y en a une autre vendredi ou samedi soir, donc je suis en train de chercher, voilà. Mais c'est un film qui, de toute façon, justement, ils avaient consacré l'une de leurs excellentes émissions d'analyse là-dessus, parce que, à ce qui paraît, c'était complètement délirant, quoi, les conditions de tournage. Par moment, il y avait entre autres justement cette fameuse scène.
Ah bah c'était gros stuff, hein, tout le temps, hein. C'est-à-dire que quand il fume le joint avec Nicholson et tout, c'est pas du tabac, quoi. C'est vraiment c'est de la bonne ganja sans problème.
Une citation qui avait été sortie quand Dennis Hopper est mort, j'ai vu ça dans un journal, c'est que Wim Wenders, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé, d'après vous, qui sera l'artiste qui passera jamais le cap de l'an 2000. Je sais même pas si c'était l'an 2000 ou les années 90. Enfin c'était voilà, et il a le premier nom qu'il avait cité, c'était Dennis Hopper. Il le voyait pas ivre vieux, et finalement il est mort à 74 ans quand même.
Bah oui, oui, non, mais c'est quand même pas mal, quoi.
Finalement, moralité, si vous vous chargez et tout, vous pouvez vivre vieux. Hein.
Bah ouais, bah c'est bien parce que bon, bah ça correspond un petit peu à ce dont je vais parler juste après.
Ah oh, bah tiens, quel enchaînement.
Avec un enchaînement tout à fait à propos. Hein. Je vous ai parlé il y a. Allez, mais Sweet Virginia, allez. Je vais vous parler, je vous avais parlé il y a 15 jours de Exile on Main Street, une saison d'enfer avec les Rolling Stones, donc bouquin de Robert Greenfield sorti l'année dernière. Là, je vais vous parler d'un bouquin, le bouquin qui a fait connaître Robert Greenfield, qui s'appelle STP, à travers l'Amérique avec les Rolling Stones. STP, qui peut s'interpréter de différentes façons. L'officiel, c'était Stones Tour Party. La tournée américaine des Stones, 2 mois aux États-Unis en 1972, mais c'était également le nom d'une drogue hallucinogène qui circulait vers la fin des années 60, Serenity, Tranquility, Peace, et qui en fait n'était ni plus ni moins que du MDMA, à savoir l'ecstasy, qui avait été découvert dans au début des années 60 et qui avait été ressorti, bien sûr.
Enfin, dans les années 60,
fin des années 80.
Ça a été l'usage entre guillemets récréatif, puisqu'il était connu depuis les années 20-30.
Ouais, mais il était connu dans un milieu très restreint, en fait, plutôt du côté de la côte ouest des États-Unis, où il avait été justement, on avait fabriqué et inventé ce produit. STP, donc, de Greenfield, qui était sorti donc au départ en 1975, si mes souvenirs sont bons, en version originale, puis en 1977 dans la version française, dans une maison d'édition qui s'appelait Speed 17, qui a sorti d'autres bouquins un petit peu déviants comme ça. Et là, comme Robert Greenfield le dit dans cette introduction qui ne figurait pas dans le bouquin original, car il s'agit d'une réédition avec une traduction de Philippe Paringo qui a été retraduite, parce que Paringo le déclare lui-même et tout. La première traduction que j'ai faite, c'était vraiment de la merde, j'étais pas traducteur, d'ailleurs je suis toujours pas traducteur, mais enfin j'ai essayé de faire mon mieux pour que ça rentre. Et Greenfield dit là, ce bouquin, quand je l'ai écrit et quand j'ai pu faire cette tournée avec les Stones et tout, c'est un rêve que n'importe quel rock critique ne rêverait même pas de pouvoir faire avec quel que soit le groupe actuel, à savoir être dans l'intimité d'un groupe de rock qui était à l'époque le groupe de rock le plus connu et le plus puissant au monde. Hein. Les Rolling Stones à l'époque, c'était vraiment le sommet de leur carrière et c'était vraiment ceux qui étaient les plus connus. Et un journaliste de 28 balais qui se permet d'avoir le badge qui lui all access à tout ce que peuvent faire les Stones et l'ensemble du crew donc de la tournée, et pouvoir taper ses petits textes et tout pour faire ce bouquin qui au départ devait être une série d'articles pour un périodique aux États-Unis, et qu'il a décidé, parce que bien sûr le texte a été refusé, ça c'est clair, et qu'il a décidé donc d'en faire un bouquin. Il le dit franchement, il dit maintenant les rock critiques peuvent toujours rêver, mais ne serait-ce que d'aller juste devant la porte backstage du groupe et tout, quoi, ils se feraient foutre dehors et tout, alors que moi j'avais accès vraiment partout, toutes les parties et tout, et tout est assez bien décrit dedans. Ça commence avec bien sûr le retour des Stones, parce que ça concerne également le retour des Stones 3 ans après la tragédie d'Altamont. Ils sont pas retournés aux États-Unis, ils ont fait un détour par la France pour des causes plus ou moins fiscales, j'en avais parlé il y a une quinzaine de jours, et là il faut remarquer le coup musicalement parlant, et il faut reconquérir l'Amérique, parce que c'est comme ça qu'on peut faire pas mal de pognon. Au niveau de vente de disques et tout, ça va plus ou moins bien, il n'y a pas de problème. L'album Exile on the Main Street, par contre, a pas été une franche réussite. C'est un double album, ça coûte 2 fois plus cher, et puis il y a plein de morceaux, on sait pas trop, il n'y a pas trop d'unité. À l'époque, le disque n'a pas vraiment beaucoup marché, ça a pas été considéré comme un bon Stones. C'était un Stones vraiment plus réservé aux gens qui étaient fondus des Stones, mais les autres qui écoutaient quelques morceaux des Stones comme ça étaient pas trop dans le trip, quoi. Donc pour marquer le coup et pour gagner bien sûr pas mal de pognon, ça c'est bien sûr le côté Mick Jagger qui l'emporte, c'est lui quand même le boss du groupe, on décide de faire une super tournée aux États-Unis, 2 mois de tournée avec des tickets vendus par ordinateur, avec un système de vente par ordinateur déjà à l'époque, pas plus de 4 billets par acheteur, tout un système et tout, mais à l'époque ça marchait pas comme ça marche maintenant, donc ça a été vite le bordel. Ça a été vite
débordé
de toute façon. Et ça nous raconte, eh bien, d'abord l'organisation de la tournée avec tous les personnages, c'est-à-dire le tourneur, le manager et tout. Manager qui également aussi jeune que les Stones, il a pas passé la trentaine et tout. Auparavant, il s'occupait des Who, donc bon, bah, ok, c'est déjà le mec qui a un petit peu de bouteille et tout. Et on va comme ça suivre la tournée des Stones tout au long de leur truc, avec tous les déboires qu'il peut y avoir et tout. Leur premier concert, ils sont en Californie, leur premier concert a lieu à Toronto au Canada. Malheureusement, bah non, ils ont on n'a pas d'avion pour y aller, comment on fait? On a qu'à prendre le bus, un truc comme ça et tout. Enfin bon, des petites galères comme ça qui ont l'air de rien, on en rigole maintenant, mais à l'époque, c'était quand même une grosse équipe de tournée, hein, parce que bon, y avait tout le monde, les machinos, les roadies et tout. Enfin bon, c'était une soixantaine de personnes qui tournaient donc il fallait carrément un avion, voire deux avions pour transporter et le matos et les gens. Bon, le matos c'était plus par camion de toute façon. Alors bon, il y a quelques passages qui sont hyper savoureux. On parle bien sûr de Keith Richards, là. Keith Richards qui sort des trucs absolument incroyables dans le style mon foie, il est déjà en cage de verre au British Museum et tout, mais ils ont déjà réservé la cage de verre pour mon foie au British Museum, mais ils vont devoir attendre pas mal de temps avant de la voir. Enfin bon, alors que bon, ils s'enfilaient absolument tout ce qui se passait, hein, y a pas de problème. Il y a une scène où ils se font offrir pas mal de dope, hein, bien sûr, hein, ils en achètent un petit peu, mais il y a les dealers qui sont bien contents de pouvoir leur donner soit de la coke, soit de l'héro. À l'époque, ça marchait bien, l'héro également. Et à un moment, il y a une scène où ils sont 4 ou 5 comme ça, et il y a un type qui tend un sachet comme ça de poudre blanche et qui dit « Tiens, Kiss, vas-y, goûte ça et tout, quoi. » Puis il y a Kiss qui regarde et qui sniffe et tout, qui dit « Ah ouais, c'est de la bonne et tout, de la China White, cool et tout. Ah ouais, mais là, on doit passer la frontière et tout, quoi. Oh, bah, t'as qu'à le ranger dans ton sac et tout. » Et puis Kiss qui répond « Ouais, pourquoi c'est toujours moi qui trimballe la cave et tout ?» Enfin, moi, des petits trucs. Il y a également le passage où ils sont à Chicago dans la Playboy Mansion originelle de Hugh Hefner, où ils passent 3 jours et 3 nuits en compagnie des Bunny. Alors là, all access également de la part de Hugh Hefner, qui leur dit allez-y les gars, servez-vous, il y a pas de problème et tout. On apprend ce qui se passait à l'époque avant que Hugh Hefner déménage en Californie et ouvre sa Playboy Mansion en Californie, celle qu'il a toujours, hein, d'ailleurs, hein, si vous regardez E Entertainment, vous voyez les girls
le
Playboy clip, et tout.
Le clip des Weezer.
Et là, bon on apprend des vertes et des pas mûres et tout. On apprend surtout que les Bunnies se défonçait également, hein, comme les autres, c'est-à-dire que bon, le petit côté un petit peu réac qui est passé dans les années 80, Hugh Hefner disait moi, Nenbana, elles sont clean, elles ne se défoncent pas et tout. Bon, c'était pas tellement le cas à l'époque, hein, y a pas de problème et tout. Que les nanas, quoi, après 3 nuits de débauche et tout, quoi, elles avaient carrément établi des notes concernant les performances sexuelles des différents Stones, et que, bizarrement, c'était quand même Keith Richards qui était le meilleur coup. Bon, c'est expliqué après par le fait qu'ils prennent de l'héro, et que pour les gens qui connaissent un petit peu l'héro, c'est vrai que ça dure vachement longtemps, il n'y a pas de problème, hein. C'est plus endurant, quoi, mais enfin bon, on sait aussi que l'héro, ça peut détruire pas mal. Et c'est un bouquin très très intéressant qui reste encore d'actualité, parce que tout ce qui a pu être écrit par la suite sur les excès de tous les groupes de hard rock dans les années 80 et tout, on l'a dans ce livre, et en fait, là, on est en 1972. Donc on est 10 ans, 15 ans avant tout ce qu'on peut lire maintenant dans la presse People concernant des Pete Doherty ou des Amy Winehouse ou je sais pas quoi, là, qui sont un petit peu gentils comme ça et tout, font de la provoque un petit peu gratuite et tout, alors que là, ok, autant si un personnage comme Mick Jagger était également, elle prenait sa part à la fête et tout, que ce soit au niveau sexe, au niveau drogue, mais c'était quand même le type qui tenait les rênes et tout, qui était capable de niquer une nana, ensuite s'envoyer 4 rails de coke et ensuite de tenir tête à une bande d'avocats pour discuter du business de la tournée et tout, quoi, avec chiffres à l'appui. Rappelons quand même que Mick Jagger, avant de commencer rock'n'roll, avait fait le London School of Economics, ce qui n'est pas n'importe quoi comme école, donc il savait plus ou moins de quoi il parlait. C'est un bouquin qu'il faut lire absolument, de toute façon, quoi, pour se replonger un petit peu dans cette époque-là, parce que c'est également un instantané, de ce qui se passait à l'époque, que ce soit au niveau politique, on est en pleine période nixonienne. 72, c'est le Vietnam qui se, les ricains sont en train de se casser la gueule grave au Vietnam et tout.
Ils savent qu'ils vont devoir se désengager, mais ils savent pas encore comment.
Ouais, et donc il y a toute une partie de la jeunesse, ça décrit bien la jeunesse, c'est-à-dire les gens qui vont aller voir les concerts des Stones et tout, hein, et qui, voir comment eux ils réagissent par rapport à ça, c'est-à-dire déjà le fait d'aller voir des concerts avec ce genre de groupe anglais en plus, hein, qui plus est, et comment ils se positionnent par rapport au nombre de drogues qui pouvaient circuler à l'époque. Bref, c'est très très bon, excellente réédition, donc toujours dans la même maison d'édition que le Exile on Main Street, le mot et le reste, STP à travers l'Amérique avec les Rolling Stones de Robert Greenfield. Le bouquin se termine avec deux chapitres qui sont consacrés, que Greenfield n'avait pas pu écrire à l'époque, mais qui concernent, eh bien, ce que les Stones sont devenus. D'ailleurs, il le dit d'ailleurs en avant-propos, hein, bon, bah, ok, là, maintenant, ce que les Stones sont devenus et tout, quoi, bon, bah, c'est pathétique, c'est n'importe quoi, des gens qui proclamaient des fleurons révolutionnaires et tout, qui sont maintenant des multimillionnaires ou presque multimilliardaires et tout, qui font des concerts dans des super stades et tout, enfin, ils le faisaient déjà à l'époque, hein, c'est à cette époque-là qu'ils commencent vraiment à ne tourner que dans des stades, parce qu'ils attirent tellement de monde qu'il faut de grandes enceintes, quoi, pour accueillir tout le monde. Et encore, il y a des gens qui restent dehors, hein. Bon, ça nous raconte aussi comment, rentrer à un concert gratuit, mais là, les moyens sont quand même assez violents, hein. C'est pas tellement la resquille, la débrouille. Là, c'est plutôt, on pète les portes et on y va, quoi. Hein, bouquin excellent, passionnant. Donc, Robert Greenfield, STP à travers l'Amérique avec les Rolling Stones.
Et vu qu'il est 13h20, 30 minutes, pile poil, est-ce que tu vas faire le cinéma? Parce qu'à mon avis, l'animateur sport, là, il va débarquer. Et il va
mais de toute façon, je faisais une contre-programmation par rapport à la Coupe du Monde de foot.
Toi?
Ben, comme il va y avoir, à partir de mardi prochain, 13h à 14h, tous les mardis, donc émission spéciale Coupe du Monde. Animé par Mehdi, donc qui reprend sa tranche horaire, hein, Chronolo Jazz, mais qui va nous parler de football avec d'autres intervenants, dont votre serviteur entre autres. Tu es cordialement invité si tu veux venir, il y a pas de problème, pour nous parler de cette Coupe du Monde.
Tu parles à Xavier là.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oh, ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas l'image. Surtout, n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Ah, je suis désolé, hein. Si Richard le dit, ça doit être vrai.
Allez, parlons de télé à présent avec.
Avec de la loi des séries.
Ouais. La loi des séries, hein, puisque on a eu les screenings et tout, donc.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Alors, avant de parler de séries, les Rolling Stones, eh bien, justement, il y a un documentaire qui a été présenté à Cannes par Steve Liptak concernant Rolling Stone in Exile, donc un documentaire tourné dans la villa à Villefranche-sur-Mer, de Villa Nelcote, le bouquin dont je vous ai parlé il y a 15 jours, documentaire d'une heure qui sera diffusé jeudi prochain sur France 5 à 20h35, un documentaire d'une heure donc, qui raconte un petit peu les conditions d'enregistrement de cet album Exile on Main Street et la façon dont les Stones vivaient un petit peu en bas, sur la Côte d'Azur. Donc c'est jeudi prochain sur France 5 à partir de 20h35. Série inédite, déjà le gros, le master, la série qui cartonne avec quand même une moyenne de plus de 11 millions de téléspectateurs à chaque épisode, et en plus produite et créée par le type qui nous avait fait Nip Tuck au départ, j'ai réussi à le caser encore une fois, tu vois.
Bravo.
Ryan Murphy.
Shahrukh Khan, Nip Tuck.
Ouais. Ryan Murphy, donc, qui nous propose Glee. Et c'est le retour de la comédie musicale. Alors, le pitch est vachement simple et tout. Ça se passe dans un lycée de province aux États-Unis. Et c'est un prof d'art dramatique ou un prof de musique qui, pour intéresser les jeunes à autre chose que moi, je veux devenir capitaine de l'équipe de football et moi je veux dire devenir cheerleader, pom-pom girl et me taper le capitaine de foot de l'équipe, leur propose d'autres distractions, à savoir faire une comédie musicale, un spectacle donc musical, et avec des personnages en plus, avec des caractères, j'allais dire des personnages donc qui sont le tout venant, on va dire, hein. Il n'y a pas le grand beau fort, et ben, enfin, disons, la distribution qu'on a l'habitude de voir dans les séries où c'est quand même relativement stéréotypé, où on a toujours le petit à lunettes et tout qui joue le geek, on a le grand baraqué et tout qui va se taper toutes les nanas, la jeune fille qui est prête et ouverte à tout, l'autre qui est un petit peu renfermée, mais c'est quand même elle qui gagnera le cœur du héros à la fin, enfin bon, le truc bien stéréotypé. Là, non, ok, on prend des jeunes vraiment qui sont plus près de la réalité vraie, hein, que le stéréotype. Quatre fois que je dis, ça va suffire, hein. Et ça donne surtout, ben, une série qui cartonne parce que les numéros musicaux sont impeccables, sont nickel. Faut dire que du côté, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une grosse tradition de la comédie musicale depuis des années, des décennies et des décennies. Ce qu'on n'a pas en France, bon, bah, c'est un petit peu dommage, faut essayer de s'y faire et tout, hein, mais là, le fait est que ça fonctionne si bien que dès la première saison, ils obtiennent le Golden Globe de la meilleure comédie, hein, comédie télé, et que l'équipe de Glee s'est fait inviter par Michelle Obama à la Maison Blanche pour donner une représentation privée, tu vois un petit peu, et que maintenant, bah, il commence à y avoir plein d'artistes qui au départ étaient pas trop d'accord, parce qu'en plus les morceaux choisis pour les illustrer musicalement les comédies, eh bien, ce sont des morceaux connus, des morceaux pop de nos jours, Rihanna, des machins comme ça, enfin de tout et n'importe quoi. Mais il y avait quand même quelques artistes qui étaient un petit peu, ouais, non, c'est quoi cette merde, moi je veux pas participer à ce truc là, genre Chris Martin de Coldplay, hein, non non, mon art est supérieur et tout quoi, et qui se disent, ah bah quand même, ce serait quand même pas mal et tout. Madonna, elle carrément a dit, vous prenez ce que vous voulez de mon catalogue, je vous le file, il n'y a pas de problème et tout. Et que maintenant, l'agent, même l'agent de Britney Spears se débat pour que Britney fasse peut-être une petite apparition dans un épisode de la saison 2, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça Glee, ouais, en fait quoi. Et donc cette série débarque sur Orange Ciné Happy à partir de demain soir 20h40 avec deux épisodes, les deux premiers de cette première saison qui en compte 22. Le premier s'appelle tout simplement Glee et le deuxième s'appelle Tout le monde adore le disco. On change radicalement de style avec eh bien encore une série dérivée de l'univers de Dick Wolf, Law and Order. Et là c'est Law. Et là c'est Law and Order Londres. C'est la version dérivée anglaise. Alors Dick Wolf, ça je l'ai lu hier. Dick Wolf, quand on lui dit que sa déclinaison française de oui, son truc n'a pas marché, que c'était une grosse bouse, que ça avait rien à voir et tout quoi, Dick Wolf il répond simplement, j'en ai rien à carrer, je m'en contrefous quoi. Par contre, connaissant les productions anglaises, là il a fait un petit peu plus attention et donc on peut s'attendre.
Enfin, est-ce que vraiment il avait besoin de faire attention?
Ouais, justement, c'est ça quoi. Hein, bon, il avait pas trop besoin de faire attention. Il s'est dit là, je peux y aller un petit peu plus tranquille. Il y a pas de problème. Il y a plus un petit gage de qualité et tout, parce qu'il est quand même, il connaît hein, quand même la télé anglaise et tout. Il suit quand même pas mal ce qui se passe. Donc bon, bah, il est au courant. Dans les rôles principaux de cette longue police judiciaire. Alors c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire quoi, une partie police hein, qui enquête et l'autre partie qui juge les criminels. Enfin bon, comme d'habitude, hein, c'est Law and Order de toute façon. Sauf que ça se passe à Londres. Dans les rôles principaux, eh bien, on a Jamie Bamber, Apollo dans Battlestar Galactica, ben ouais, et Bradley Walsh. Et par contre, on va pas décerner des louanges à TF1 qui nous programme ça demain, ouais, à 17h55, fin d'après-midi.
Oh non.
Donc pour une série complètement inédite, merci les gars, ça fait vraiment plaisir. Enfin, on va dire qu'on a l'habitude avec TF1, il n'y a pas de problème. Le premier épisode s'appelle Amour à risque. Donc c'est Londres Police Judiciaire. La première saison fait 13 épisodes. C'est diffusé donc par TF1 demain, premier épisode à 17h55. Alors petite curiosité, ce soir sur TV Braze, le samedi soir sur TV Braze, c'est Columbo bien sûr. Mais par contre, si le premier épisode est un petit peu dispensable parce qu'on l'a déjà vu, il a déjà été diffusé par TF1 et que il est vraiment, c'est le plus moyen, hein, on va dire, qu'a réalisé Patrick McGowan, il date de 99, c'est Meurtre en musique avec Billy Connolly, et il est pas extra, on va dire. Hein. C'est la nouvelle mouture des Colombo. Par contre, jetez un coup d'œil sur le deuxième diffusé qui s'appelle Le Livre Témoin, un téléfilm de Colombo de 1971, diffusé donc ce soir à 22h15, dont le réalisateur est un certain Steven Spielberg et le scénariste un certain Steven Bochco.
D'accord, ok.
Avec Jack Cassidy, Martin Milner et Rosemary Forsyth. C'est donc ce soir à partir de 22h15 le livre témoin Colombo, réalisé par Spielberg et scénarisé par Steven Bochco. Sinon, jetez quand même un coup d'œil si vous avez loupé la première saison. Enfin, il y a encore une séance de rattrapage demain soir sur Série Club à 20h40 sur Beautiful People. Cette petite série sympathique anglaise qui raconte c'est un gay qui est devenu directeur artistique dans un grand magasin de mode à New York et qui se rappelle son enfance pitoyable à Reading en Angleterre, vraiment la ville pourrie, paumée.
C'est pas pourri Reading, c'est super joli.
Ouais, mais
bon, c'est à 40 km de Londres, mais quand même.
Il y a rien à foutre là-bas, mignon. Quoi. Il vaut mieux aller à Londres, quoi, plutôt de rester à Reading. Et donc, il se rappelle un petit peu avec sa famille complètement déjantée et tout.
C'est une demi-heure la Jubilee Line à Reading.
C'est complètement jubilatoire, c'est vachement bien foutu. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Demain, il y a le dernier épisode de la saison 1 qui s'appelle Ma première boule à neige, et ensuite deux épisodes de la saison 2 de Beautiful People, donc demain soir sur Série Club à 20h40. Alors des films vite fait, alors ce soir sur Syfy à 22h20, là ça vaut le coup de voir cette formidable aventure de Bill et Ted et Ted de Steve Erek, qui est quand même un réalisateur catalogué Disney, je crois d'ailleurs que c'est un film Disney, avec Keanu Reeves et Alex Winter. Hein, surtout regardez-le en version originale. Keanu Reeves qui joue au gros bêta, en fait c'est deux cancres du lycée qui doivent faire un devoir d'histoire, et pour ceci ils se procurent une machine à remonter dans le temps pour pouvoir justement étudier les différentes périodes et tout.
Ouais.
Mais ça vaut le coup pour le jeu de Keanu Reeves là, qui là il met pas de plus en plus. Il était très jeune à l'époque, je vous rassure. Mais là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc c'est ce soir sur Syfy. En plus, en version originale, c'est pas mal. Demain sur France 3 dans le Ciné Club, Bitter Victory, Amère Victoire de Nicolas Ray. On en reparle. Hein, qui en fait de son vrai nom, c'était Raymond Nicolas Kinsley. Ya. Qui au départ est architecte étudiant d'un certain Frank Lloyd Wright. Ça te dit quelque chose?
Non.
C'est le type qui nous a fait le Guggenheim, entre autres. Le musée Guggenheim. C'est l'architecte du XXe siècle aux États-Unis.
C'est lui qui faisait toute la lignée très futuriste, très en vogue dans les années 40-50. Oui.
Ouais,
avec en fait des murs blancs, des plafonds, des toits très plats.
Tout
et
à fait.
Des grands couloirs en verre.
Tout à fait. Nick Ray, qui au départ est un acteur de théâtre, qui joue pour Jack Houseman, pour Elia Kazan également au théâtre, mais qui nous a fait quand même pas mal de bons films, Les Diables de Guadalcanal, Johnny Guitar, Rebel Who's at a Cause, dont on a causé à propos de Denis Hopper, Traquenard avec Sid Charis, Hier, et Les 55 jours de Pékin. Donc c'est demain soir sur France 3, Amère Victoire avec Richard Burton, Kurt Jurgens, Ruth Roman, Christopher Lee et Nigel Green, l'histoire des Anglais contre les Allemands pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale en Libye. Yes. Demain également sur 13e rue, un bon Moki, vraiment un bon Moki, l'Ibis Rouge de 75 avec les trois Michel, Serrault, Galabru et Simon, dont c'est le dernier rôle d'ailleurs de Michel Simon, il est mort peu de temps après, également Evelyne Buil.
En général, les moquis sont pas mauvais. Hein.
Ouais, bon, ok.
Excuse-moi, je suis pas chroniqueur cinéma.
Bon, d'accord, ok. Non, t'as pas regardé beaucoup de moquis, c'est pour ça.
C'est facile de se moquis comme ça.
Sur TCM, demain soir... Soirée spéciale Alan Ladd avec tout d'abord L'Aigle solitaire de Delmer Daves en 64 avec Alan Ladd qui vient pour essayer de pacifier une région où les colons en ont marre des Indiens et tout quoi, et dont l'un des Indiens est Charles Bronson et tout quoi, et là c'est pas mal, c'est sympathique hein, de toute façon quoi. Il y a 22h25
scène reprise d'ailleurs dans le
oui non mais on l'a vu ça dans d'autres films, enfin bon là c'est pas mal, c'est un bon western.
Et qu'est-ce qui est devenu l'Indien? Il est devenu justifié.
À 22h25 toujours demain soir sur TCM, La clé clé de verre. Donc là, c'est le classique de Stuart Eisler. C'est pas la première version. La première version, elle date de 35 et c'est la version de Frank Tuttle. Mais ça, c'est la version fameuse, hein, avec Alan Ladd et Veronica Lake, ainsi que Brian Donlevy. Brian Donlevy qu'on retrouve dans le film qui passe après La Clé de Verre, Révolte à bord, de John Farrow, avec bien sûr Alan Ladd à 23h50. John Farrow qui est le papa de Mia Farrow et qu'il a eu avec Maureen O'Sullivan. Maureen O'Sullivan qui est Jane dans Tarzan. Bah ouais. Lundi sur RTL9 à 22h20, Piranhas de Joe Dante en 78, excellent. Et sur TMC, soirée Steven Seagal avec tout d'abord un bon film, Piège à grande vitesse de Geoff Murphy avec Steven Seagal. Et un casting où tu retrouves que des acteurs qui après sont devenus vachement connus ou ont été vachement connus grâce à des séries. Nick Mancuso grâce à Matrix. Et Catherine Heigl, et ouais, et Eric Bogossian, le patron dans New York Brigade Criminelle. Et ensuite, ensuite ça se gâte quand même avec à 22h25 Shadow Man de Michael Kush avec Steven Seagal et Eva Pop. Et Piège au soleil levant de Mink, que là, j'avais rarement vu celui-là, il était pas trop programmé, on va dire, dans le style Les Bouses où Steven Seagal il arrive à peine à bouger, hein, mais il y a également Matthew Davis.
Mais je l'ai vu celui-là.
Ah bon?
Parce que j'étais en train d'installer ma télé, de continuer l'aménagement chez moi, mais j'ai surtout vu au son, et en fait c'est un film assez intéressant puisqu'il parle à moitié japonais, puisque ça se passe au Japon, et finalement c'est pas trop les méchants et les bons, les méchants ils sont pas vraiment méchants aussi, il y a des alliances et tout. Bon, t'as une scène finale où Steven Seagal il perd sa nana, et donc il y a une scène où ils se tiennent par le petit doigt tous les deux, et puis il y a un fondu enchaîné, la nana elle s'enlève. Et en fait, Steven Seagal dans un jardin japonais qui a le petit doigt en l'air.
Oh,
rien
c'est
que
beau.
Pour ça, faut voir le film.
C'est beau. Ah bah ouais, c'est bien de le dire. Ouais, y a pas de problème. Mardi, par contre, alors là, c'est un grand classique. J'allais dire un gros classique.
Non.
De Russ Meyer. C'est pas son meilleur.
Non.
Mais celui-là, il était pas mal. Hein. Mega Vixens sur Paris Première mardi prochain. À 22h55, c'est un Russ Meyer qui date de 76, donc à l'époque c'était déjà la surenchère et tout, hein, donc c'est vraiment super big boobs avec Monty Bain, Ravel de la Croix, Jarlette Wood, Marie Gavin et surtout Kitten Natividad. Aïe, Kitten Natividad, aïe, je vous raconte pas quoi. Donc c'est Paris Première, Mega Big Scene, c'est mardi prochain à 22h55. Sinon, mardi c'est également le Festival des Bouzes. Avec sur NT1 20h35 Dark Waters de Philippe Giraud, le mec spécialiste des retenues, lui il aime bien l'eau, on dirait quoi, y a pas de problème, filmé dans l'eau, sous l'eau. Dark Waters donc avec Lorenzo Lamas, Simone McKinnon et Bruce Gray. Sinon sur NRJ 12 mardi prochain à 20h35, Opération Eagle One de Brian Clyde avec Mark Dacascos, Rutger Hauer et Teresa Rundle. Ou alors si tu préfères Matt Dacascos sur 13e rue, c'est Commando de l'ombre en même temps 20h40 mardi de Steven G. Moder avec outre Mark Dacascos, Bruce Boxleitner et Armand Asante. Devine qui aime les chants.
Oui, forcément, le troisième.
Ah, forcément, quoi. Sur Cinéfix, alors là, écoute bien, et là, c'est même pas la peine, je le dis tout de suite, c'est même pas la peine d'essayer de téléphoner à Xavier mardi prochain, mardi soir à partir de 21h, car sur Cinéfix, à 21h, les Daleks envahissent la Terre.
Déjà vu 4 fois.
De Gordon Fleming avec Peter Cushing et Brian Cribbins, suivi à 22h25.
Bon, c'est assez amusant, effectivement, par la performance de Peter Cushing dans le Docteur. Mais bon.
Et Doctor Who et les Daleks. Alors, il passe d'abord le premier et ensuite le deuxième, quoi. Laisse tomber. Et après, il y en a d'autres. C'est une nuit spéciale Doctor Who et Daleks, tu vois. C'est sur Cinéfix mardi prochain. Mercredi, Canal Plus Cinéma. Bonne soirée avec à 20h45 Watchmen, yeah. Et à 23h20, Vengeance de Johnny Toe avec notre Johnny belge national. Et Sylvie Testu et Anthony Wong et Simon Yam. Mercredi, c'est également le jour des daubes sur NT1 avec à 20h35 Raptor Island. C'est une soirée Raptor d'ailleurs. 20h35, Raptor Island avec Stanley Isaacs, avec Lorenzo Lamas, Stephen Bauer et Peter Jason. Et comme le Raptor, il va en bouffer pas mal, dont Lorenzo Lamas, dans Planet Raptor à 22h20 de Gary Jones, on n'a plus que Stephen Bauer et Peter Jason. Mais il y a des nouveaux qui viennent pour se faire bouffer, dont Ted Remy et Vanessa Angel. Ah, Sur Énergie, c'est également un petit peu bousesque, mais pas trop. C'est une soirée Dolph Lundgren avec tout d'abord Agent Destructeur de Damien Lee, avec bien sûr Dolph Lundgren et Alexander Kuznetsov. Et à 22h20, celui-là, il est pas mal. C'est vraiment une daube, une série C, mais magnifique. Le Dernier des Dragons de Isaac Fiorentin avec Dolph Lundgren et Kari Hiroyuki Tagawa, qui là est magnifique.
Oui, c'est dans le futur, non?
Ouais, où il a son espèce d'uniforme tout pourri. Ouais. C'est magnifique. La scène finale de baston est absolument splendide. Mercredi sur Sci-Fi, Absolon de David Bartow avec Christophe Lambert et Lou Diamond Phillips. Et sur TCM, un excellent film co-dirigé par Joseph von Sternberg et Nicolas Rey. C'est Macao, le paradis des mauvais garçons avec Robert Mitchum et Jane Russell. Produit et trafiqué par Howard Hughes d'ailleurs. Stenberg qui nous a fait quand même Shanghai Jester, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et c'est lui qui a découvert une certaine la blonde là.
Une blonde. La blonde.
Allez, la blonde là, Marlène Dietrich. Ah là 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 là.
Elle avait déjà fait une carrière en Allemagne auparavant.
Oui, mais bon, lui, il l'a fait découvrir au reste du monde, mon gars. Eh ouais. Mercredi sur Orange Ciné Nouveau, soirée Steve Buscemi avec deux films de Steve Buscemi. Le premier, je peux pas vous en dire plus, hein, c'est Lonesome Jim, un film de 2005 avec Casey Affleck et Liv Tyler. Mais par contre, à 22h10, Animal Factory, là c'est une tuerie ce film. Edward Furlong entre deux cures de désintox est carrément excellent. Il y a plein de second rôles dedans qui sont pas mal, et c'est tiré du bouquin d'Edouard Bunker, donc là on adhère, hein, c'est vraiment bien foutu. D'ailleurs Bunker joue un petit rôle d'ailleurs dans ce film, et c'est vraiment très très bien. Je crois que c'est son premier film d'ailleurs, sa première réalisation à Steve Buscemi. Et là il a vraiment tapé très très fort, hein. C'est un petit peu Oz. C'est même style, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi, de toute façon, quoi. Jeudi sur W9, Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang de Dwight Little avec Johnny Messner, Cady Strickland et Matthew Marsden. Et si vous aimez bien les reptiles, jeudi, il y a également NT1 qui vous propose à 22h30 Komodo de Michael Lantieri avec Jill Hennessy. On se demande ce qu'elle vient foutre dans ce truc. Et Billy Burke. Mais Steven Seagal n'est pas en reste, car sur Energy 12 à 22h15, il est dans l'affaire Von Haken de Michael Oblowitz. Là, laisse tomber. Mais on préférera peut-être, si on l'a jamais vu, eh bien, cette bonne biographie, hein, de Rob Cohen, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, avec Jason Scott Lee qui est pas mal, hein, et Lauren Holly qui est aussi pas mal du tout. Vendredi, on termine avec sur RTL9, c'est la Shaolin Night tous les vendredis soirs sur RTL9. Là, ils nous le rediffusent, mais enfin bon, si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. La 36e chambre de Shaolin, avec Lucha Lang, réalisateur également, Gordon Liu bien sûr, Lollier, Wilson Tong, enfin bon, c'est du bon, hein, il n'y a pas de problème. Sur France 4, 22h20, Mammouth la Résurrection, c'est pas mal en fait, hein, comme petit film, c'est un petit peu décomplexé comme ça, on se prend pas au sérieux, rien à foutre. C'est de Tim Cox, donc, avec Vincent Ventresca et Summer Glow. Sur TF6, Battle Royale, vendredi prochain à 23h05, le Kinji Fukasaku. Et sur Cinéma Frisson, eh bien, à 23h10, un film du frère Tony, True Romance, dont on parlait avant, ouais, avec la distribution qui est carrément top moumoute,
top dantesque.
Slater, Patty Arquette, Dennis Hopper, Gary Oldman, Brad Pitt, Val Kilmer, enfin tu vois, t'es là, tu dis oh putain, dans tout cela dans ce film et tout, quoi. Par contre, on peut jeter un petit coup d'œil à la chaîne Polar vendredi prochain, parce que il y a deux petites curiosités assez anciennes. Tout d'abord, à 21h35, Dick Tracy contre Q-Ball.
C'est les séries Hall. Je suis tombé hier dessus en pensant que c'était justement la reprise des années 80. Non, c'est les séries Hall.
Non, c'est le serial des années 40.
Ça dure une heure. Alors, juste une surprise, que Dick Tracy, dans la BD, est censé avoir l'impair jaune et tout ça. Là, non, il a un très joli costume et
tout. Oui, classe. Enfin bon, c'était la période, hein, c'est 46.
Mais c'est très, très fun à regarder, justement. Ouais. C'est vraiment le petit côté humoristique, petit côté familial, et puis d'un autre côté il faut quand même que ça soit un petit peu noir, mais pas trop, donc c'est plutôt bien mis en scène d'ailleurs.
Non, c'est bien foutu, hein. C'est pas mal foutu. Et on jettera également un coup d'œil à ce qui suit à 22h05, Vous pigez de Pierre Chevalier en 55, oui, avec Eddie Constantine, Lemmy Cochon et Roger Hanin dans un rôle
jeune,
bad guy, et jeune en plus, hein. Et sur la chaîne Action, pour terminer, un petit western italien à 21h vendredi prochain, Du sang dans la montagne
de Carlo Lizzani avec Thomas Hunter, Henri Silva et Don Duria. Ouais, on adhère. Allez, et il me reste un peu de temps pour faire le sport là.
Il va te rester moins de 7 minutes.
Cool.
Thomas, il y en a qui sont arrivés dans l'émission en cours de route, soit dans le studio, soit sur, en nous écoutant sur FM, soit sur le stream. Est-ce que tu peux leur faire un résumé, je te prie ?
Oui, ils ont certainement raté un coup de gueule sur une déprogrammation cinéma, un gars qui s'est caressé le chien en dévissant l'ampoule, un garçon sans emploi qui aime les animaux, du reportage dans le désert, du bambou, le mariage de Tati, un gladiateur dans la forêt, un Ralph Fien et des frites. La nécro de Denis, de l'héros qui rend endurant, on a eu Shah Rukh Khan et Hip Tuck, casé encore une fois par du sport. Britney Spears qui fait sa pleureuse, Steven Seagal le petit doigt en l'air, une alerte cul et des big boobs. Hein ? L'agent de Britney qui fait sa pleureuse, mais bon, voilà. Et on avait aussi des raptors, des anacondas, des reptiles d'hiver et des mammouths.
Nom d'un pied micro qui est en train de se dévisser. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, ainsi que toutes nos archives. Retrouvez les chroniques écrites, fouillées dans nos chroniques, les commenter, jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FM 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et en continu 24/24 sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, les aliens peuvent-ils jouer au mondial ? Nom de Dieu, mais ce sera l'émission numéro 242. Ciao, bye bye.